Aujourd'hui, on va parler des forêts. Et en fait, hier, moi, je fais partie de la coordination nationale photorévoltée et également de plusieurs réseaux, comme le réseau pour les alternatives forestières, Canopée, etc., des réseaux qui essayent de protéger et de faire en sorte qu'on travaille un peu intelligemment dans les forêts en France. Nous avons plusieurs intervenants. Donc, je propose qu'on fait une rapide. On commence avec Jacques Descargues, voilà. Présente de chacun.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jacques Descargues, je suis retraité, comme vous pouvez le constater, effectivement. J'ai travaillé dans le secteur agricole. J'ai été notamment directeur de chambre régionale d'agriculture. Et j'ai travaillé 25 ans dans le secteur forestier, à la direction générale de l'Office national des forêts. J'étais secrétaire général. Voilà. Et en même temps, j'ai une expérience d'élu. J'ai 24 ans de mandat d'élu. Voilà. Et très heureux et toujours motivé pour défendre de plus en plus ces forêts bien menacées.
Bonjour. Harold du GNSA, référent à la montagne de Lure. Je suis arboriste grimpeur professionnellement et investi au GNSA depuis 5 ans. Voilà, et j'ai participé à pas mal de luttes, soit dans les arbres, soit au sol, pour des blocages de machines et tout autre type de lutte. Voilà.
Sylvie Biterlin, du collectif LZR, Lure en résistance. Donc c'est la montagne de Lure dans les Alpes de Haute-Provence où il y a un déferlement énorme de centrales photovoltaïques, en particulier sur les forêts.
Bonjour, moi c'est Yann Clément, je suis technicien forestier dans le Lot et je suis membre du fonds de dotation Forêt en Vie, qui est le seul fonds de dotation dédié à la forêt et qui rachète des forêts pour les soustraire au système actuel. On a du boulot. Et j'adore les arbres que je considère comme étant les plus merveilleux et efficaces panneaux solaires.
Ça, c'est fait. Bonsoir, moi je suis Eric Tex, je suis sylviculteur et gestionnaire forestier professionnel au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, où je mène une sylviculture un peu différente que la sylviculture conventionnelle. Je fais de la sylviculture mélangée à couvert continu.
Et bonjour, je m'appelle Pierrot Pantel. Pierrot, c'est mon vrai prénom, donc on ne m'appelle pas Pierre. Je fais 40 ans qu'on m'appelle Pierre, c'est pour ça que non, on m'appelle vraiment Pierrot. Je m'occupe de différents dossiers aux côtés d'associations, de collectifs, parfois de particuliers. Je suis ingénieur écologue, j'ai été inspecteur de l'environnement à l'OFB pendant 15 ans. Et quoi dire de plus? Et je travaille avec Sylvie sur la montagne de Lure et d'autres dossiers encore, beaucoup dans le sud de la France principalement. Mais je pense que ça va aller de plus en plus dans le nord maintenant, puisque les panneaux migrent aussi vers le nord.
Écologue et quelques connaissances juristes de juridique. Mais voilà, on aura l'occasion de développer tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà, on a découvert que nettement plus de la moitié des parcs photovoltaïques actuellement en France ont été installés là où il y avait une forêt. Donc, on a détruit des forêts pour installer ces parcs photovoltaïques. Moi-même, j'étais surpris. Je pensais que c'était moins que la moitié, nettement moins par rapport à l'agrivoltaïsme, etc. D'où l'importance de ce sujet. Ce qu'on va faire, on va faire d'abord un rapide constat de la situation dans trois régions. C'est juste des exemples. Hein. Ensuite, on va passer à essayer de comprendre pourquoi c'est particulièrement problématique et franchement incompréhensible de vouloir couper des forêts pour installer des panneaux, parce que les forêts ont ce qu'on appelle parfois les services écosystémiques. Mais, enfin, il y a plein de raisons, carbone et compagnie, donc on va parler de ça. Et ensuite, on va essayer d'évoquer qu'est-ce qu'on peut faire contre. Enfin, quels sont les arguments, quelles sont les stratégies, etc., pour permettre à stopper ces projets autant que possible. Donc, je propose que Yann, tu commences, parce qu'on est quand même dans le Lot. On est chez toi et chez vous. Donc, petit mot peut-être sur la situation ici.
Alors, le Lot, c'est un département très boisé. C'est 50% de boisement. Donc, il y a, je ne sais pas, 220 000 hectares, je crois, de forêts dans le Lot, qui appartiennent à de nombreux propriétaires, 67 000 propriétaires. Donc, ça fait, c'est un peu la chance qu'on a dans le Lot, c'est que c'est très, très morcelé. Du coup, quand il y a un projet qui se fait, il faut contacter plein de propriétaires. Donc ça, c'est plutôt bien pour cette raison-là, mais aussi pour la biodiversité, parce que finalement, comme il y a plein de petites parcelles, il y a plein de choses qui se font ou qui ne se font pas dans les parcelles. Et finalement, moi, je trouve que c'est assez riche de ce côté-là. Dans le Lot, il y a déjà des projets installés, enfin des projets qui ne sont plus projets puisqu'ils sont installés. Donc certains forestiers, il y en a un à côté de Salviac de 13 ou 14 hectares, il y en a un en projet ici à Tour de Fort, dont l'association AELC lutte ardemment. Et il y a, je crois, 60 ou 70 projets déposés, des demandes qui sont déposées dans le Lot. Pas que en forêt, c'est là tout confondu avec les terres agricoles et les soi-disant terres qui servent à rien. Tout sert à quelque chose tout le temps. Donc voilà. Donc comme je le disais, moi pour moi le panneau solaire le plus efficace c'est l'arbre. Donc je comprends pas comment on fait pour se justifier de mettre des panneaux solaires photovoltaïques à la place de quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais effectivement, ça rapporte pas d'argent à des actionnaires. Par contre, ça nous rapporte plein de choses à nous tous, et notamment de l'oxygène, de la fraîcheur, du vert, du paysage, du miel, et j'en passe et des meilleurs, on pourra en parler encore un peu. Donc voilà. Je ne brosse pas le tableau plus que ça, je pense que c'est déjà pas mal.
Tu passes le micro à toi.
Un beau département bien vert. Et on n'a pas envie qu'il devienne bleu pétrole.
Voilà, on a envie que ça reste comme ça. Eric, tu continues sur les Landes.
Alors les Landes. Surface forestière, c'est environ 1 million d'hectares. Aujourd'hui, c'est sur notre territoire national, là où il y a une implantation massive de champs de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on est à peu près à 550 hectares. Un territoire très, très, très morcelé, avec beaucoup de propriétaires, puisque sur 1 million d'hectares... la moyenne des propriétés représente environ 4 hectares. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prévisions, dont ce méga champ qui était prévu à 1000 hectares sur la banlieue bordelaise, là, sur la région de Socats. On a lutté pour ce projet qui s'appelle Oriseo. Pour le faire tomber, on pensait que c'était tombé, eh bien non, récemment on a eu des infos que les promoteurs sont encore présents. Ils ont les surfaces qui n'est plus aujourd'hui que de 800 hectares. Que 800 hectares, tant qu'à faire. Et mais en tout cas, il y en a qui sont déjà en fonction, dont un à Cestas, qui est de la proximité proche de Bordeaux, qui représente 260 hectares, plus une petite tripotée de certains qui font 15 hectares, d'autres 90 hectares. On est à environ 550 hectares. Donc aujourd'hui, comme le disait Yann, quelle problématique on va aborder, en tout cas moi en tant que sylviculteur et surtout amoureux de l'arbre et des forêts, mélangé surtout, qu'est-ce que l'on oublie dans l'installation de ces champs de panneaux photovoltaïques au niveau des enquêtes, qu'elles soient concernant le carbone ou les études d'impact, etc. etc.
Sylvie, tu continues un peu sur les Alpes d'Haute-Provence et peut-être quelques mots sur les départements voisins, ou c'est un peu la même chose, ou même la région PACA en fait.
Oui, alors donc nous, notre lutte, elle a commencé sur la montagne de Lure qui fait 40 km de long, et où on s'est rendu compte qu'il y avait entre les projets, les sites déjà investis et les projets, on en était à un chiffre de plus de 1000 hectares sur des forêts et en particulier. Et petit à petit, on a réalisé que ça s'étendait. Donc là, on défend la montagne de Lure, mais on va jusque sur le plateau de Valensole, où là, il y a Jusqu'à présent, c'était la plus grande centrale de France, mais bientôt, nous allons la dépasser par les Landes. Donc, c'est une centrale qui fait 250 hectares, qui est en train d'être agrandie. Et à côté, il y a un autre projet de 150 hectares. Donc, en fait, on a, quand on dit 150 hectares pour un projet de centrale photovoltaïque, en fait, on ne compte pas tous les dégâts qu'il y a autour avec les OLD, les chemins d'accès,
etc. Il faut dire qu'est-ce que c'est, les OLD ?
Oui, les OLD, c'est les obligations légales de défrichement, donc de débroussaillement. Oh, pardon ! J'ai des juristes avec moi là, on voit que je faisais d'erreur. Mais ça veut dire que c'est, en fait, c'est les protections incendie. Et donc, on va défricher 50 mètres minimum autour. Maintenant, on en est jusqu'à 100 et des fois jusqu'à 200. Débroussailler, pardon. Et donc, du coup, en fait, ça double la surface impactée. Donc, quand on dit 1000 hectares de centrales solaires, en fait, c'est 2000. Et donc, nous, on en est à environ 2000 en comptant justement ce plateau de Valensole. Et maintenant, ça s'agrandit vers le Luberon, qui était assez protégé jusqu'à présent, parce que c'est un parc protégé. C'est toute la région de Provence très touristique, etc. Mais ça arrive dans le Luberon. Donc, nous, on protège ces zones-là, mais les vallées autour, il y a les Hautes-Alpes, il y a le Verdon, il y a les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, tout ça, c'est complètement envahi aussi. Et donc, toute la région PACA du sud-est, évidemment, extrêmement convoitée par ces projets, puisque, soi-disant, on a le soleil. Enfin, maintenant, c'est jusqu'en Normandie, donc je crois que le soleil n'a même plus d'importance pour ce genre de projet. Mais ça a démarré surtout chez nous au départ à cause du soleil et du fait qu'on a beaucoup d'espaces naturels sauvages, donc des grands espaces avec peu d'habitants, donc peu de résistance. Et voilà, malheureusement, sur l'Ure, il y a moi, mais pas que moi, et ça résiste beaucoup.
Très bien. Alors, moi, je propose que maintenant, on écoute deux, trois intervenants. On va sauter un peu de l'un à l'autre au lieu de faire des longues exposés comme ça. Un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce que représente la forêt, en fait, pourquoi ça, c'est tellement important et pour différentes raisons et pourquoi il faut vraiment s'opposer à couper des forêts pour installer des panneaux. Alors Jacques Descargues, je crois que tu vas commencer et je pense que c'est notamment nos amis forestiers qui connaissent très bien la forêt, ils vont nous raconter différents aspects de l'importance des forêts.
Rapidement, alors j'ai oublié de dire que je représente ici SOS Forêt et que je milite dans Forêt Vivante Pyrénées où on a 4 projets industriels qui mobiliseraient 1 million de tonnes de biomasse pour fabriquer des carburants, kérosène, éthanol, chauffage industriel et du biochar. Voilà. Donc, l'enjeu de ce débat et de ce développement du photovoltaïque tourne autour de l'intérêt général. Et les industriels qui veulent installer ces centrales le disent haut et fort. Et il le chiffre. Le photovoltaïque permet de lutter contre le réchauffement climatique en se substituant aux énergies fossiles. Et le gouvernement soutient complètement cette affirmation. Et actuellement, il y a la consultation publique sur la stratégie bas carbone numéro 3, qui va être donc approuvée dans quelques mois, qui dit très clairement que la biomasse, notamment forestière, c'est l'élément clé de la substitution aux énergies fossiles. Et le programme pluriannuel de l'énergie numéro 3 chiffre les développements du photovoltaïque et des carburants qu'il faudra produire et de la chaleur qu'il faudra produire avec la biomasse. Donc on est sur une politique nationale qui s'appuie sur l'intérêt général du photovoltaïque notamment. Mais la forêt est également d'intérêt général. Dans les textes et dans les politiques publiques, ça fait 2 siècles que la forêt a été identifiée comme intérêt général, mise sous la sauvegarde de la nation. Et dans le code forestier, l'article 112.1 du code forestier acte très précisément que c'est d'intérêt général. La problématique, c'est que autant les industriels chiffrent la substitution aux énergies fossiles, autant en matière forestière, on est encore un petit peu en retard. Il y a toutefois un rapport très important qui a été publié en 2025 par le Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique, c'est les économistes les plus capés qui s'auto-saisissent de dossiers stratégiques pour eux, qu'ils perçoivent. Et c'est un premier point très important. Eux-mêmes se sont auto-saisis du secteur forestier en étant conscients qu'il y avait là un enjeu de politique publique essentiel. Ils ont fait travailler des chercheurs qui travaillent avec eux sur leur autorité pour chiffrer très concrètement la valorisation économique des différentes fonctions de la forêt. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est très important, c'est que la fonction production de bois, sylviculture et filière bois, c'est 28%, seulement 28% de la totalité de la valeur ajoutée du secteur forêt-bois. Et la fixation de carbone et la biodiversité, c'est 40%. Et le rôle social, santé, etc., ils l'ont chiffré à peu près 30%. Et sur le plan patrimonial, ils disent le carbone, c'est un enjeu majeur, ça représente 30% en valorisation économique. Donc, on voit bien, là, ils posent très clairement que quand on nous dit que le photovoltaïque, c'est d'intérêt général, on oublie qu'en coupant des forêts, on est en contradiction totale avec l'intérêt général. Alors, sur le plan technique, ce qu'on est en train de faire au niveau associatif, c'est de bâtir des outils pour que, dans chaque projet local, on puisse chiffrer ces enjeux. Donc là, on l'a chiffré effectivement sur l'aspect de la production de carburant. Maintenant, il faut le chiffrer très concrètement sur l'aspect des forestiers. Et on le comprend tous, quand on coupe une forêt, on déstocke du carbone. Et on se prive de la fixation de carbone pendant 25 ans, la durée de vie des panneaux. Donc, et ça, on ne nous en parle jamais. Donc, voilà, on est en train de travailler pour que, dans chaque projet, on puisse avoir les outils pour chiffrer ces éléments. Alors, c'est également très important parce qu'entre les forêts, il peut y avoir des effets très différents. C'est-à-dire que si on est sur une forêt de montagne relativement âgée, on peut être à 200 tonnes à l'hectare. Quand on est sur des forêts de garrigues arborées, on peut tomber à 50 ou 80 hectares. Voilà, donc il faut intégrer tous ces éléments et avoir les comparaisons pour pouvoir se défendre. Voilà, on pourra en discuter tout à l'heure.
Très bien. Eric, tu voulais peut-être évoquer la question d'eau ?
Oui, parce que aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions face au réchauffement climatique. On parle beaucoup de stockage de carbone, de déstockage de carbone, mais on oublie une des fonctions premières de la forêt, c'est la création de l'eau, quoi. Et aujourd'hui, face au réchauffement climatique, on se rend compte que l'eau disponible est en train de disparaître, hein, même si on a eu des précipitations cette année assez exceptionnelles. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les nappes phréatiques ne sont pas si hautes que ça, quelque part. Tout repart directement à la mer avec la terre arable. Et donc, la fonction de l'arbre, c'est aussi cet effet climatiseur. Et les études qui sont faites, en fait, un arbre, lorsqu'il produit un kilo de bois, il évapotranspire 300 litres d'eau. Donc, si on coupe cette forêt, comment allons-nous être alimentés en eau? Comment pouvons-nous dire que nous Combattons le réchauffement climatique en installant des champs de photovoltaïque pour faire face, et ça peut se comprendre, au manque d'énergie fossile. Mais on se prive de notre premier climatiseur et voilà, comment faire, quoi. Et tout ça, c'est complètement sous-estimé. Dans les études d'impact, on ne parle jamais d'eau. Pour moi, elles sont incomplètes, quoi. Ce facteur-là est très intéressant et manque dans toutes les études d'impact.
Il y a un autre impact que je ne sais pas si l'un de vous connaît bien, mais en tout cas, moi, je tiens à raconter cette petite anecdote parce que ça indique quelque chose dont on parle extrêmement peu. C'est un ami qui fait le parapente dans notre région, hein, dans les Alpes de Provence. Et chaque fois qu'il passe, s'il veut monter, bah, il passe au-dessus d'un parc photovoltaïque. Il y a un volume d'air qui monte d'une manière incroyable. C'est assez brutal même. Et parce qu'il fait 85 degrés à peu près, hein, au-dessus des panneaux. Et ce que lui, il évoque, et à mon avis, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je ne sais pas, c'est que... Non seulement ça fait, quand ça fait un courant comme ça, en fait ça aspire, un courant, mais ça aspire de plusieurs centaines de mètres sans doute, plus loin que le panneau, le parc même. C'est-à-dire, on a coupé une forêt, on a mis une partie, c'est une sorte de partie à l'intérieur d'une zone forestière, mais on va assécher peut-être plusieurs centaines de mètres de forêt. Dû à ce phénomène de courant d'air. Personne n'en parle, et je dois dire que c'est une chose qu'on a vue, je pense, tout ce week-end, c'est qu'on est en train de faire une déferlante absolument invraisemblable de parcs photovoltaïques, rapidement, à mon avis, pour le faire le plus vite possible, pour éviter que les études scientifiques puissent être faites, parce qu'une fois qu'ils sont faites, on va comprendre que c'est une bêtise monstre. Voilà, c'est un exemple comme parmi d'autres. Je demande si, je ne sais pas, Yann, Eric, Jacques, ou parce qu'on va passer après un peu la stratégie avec Pierrot, avec Genessa, avec Sylvie, mais peut-être d'autres aspects. Pourquoi il ne faut pas toucher les forêts comme ça?
Il y a aussi un aspect dont on parle beaucoup et pas assez à la fois, c'est l'aspect de la biodiversité. Une forêt, en fait, c'est très, très riche en biodiversité. Les principales sources de biodiversité terrestre, à mon avis, elles sont en forêt. Et donc, forcément, si on rase une forêt, on rase aussi toute la biodiversité qui est associée. Et elle est extrêmement importante. Et elle est pas que liée aux arbres vivants, elle est aussi liée aux arbres morts, elle est aussi liée à l'âge des peuplements, elle est aussi liée à la diversité des peuplements. D'où l'intérêt de faire de la sylviculture mélangée à couvert continu. C'est une sylviculture irrégulière où on ne fait jamais de coupe rase et où on sélectionne régulièrement des arbres. On va souvent chercher du bois en forêt, mais on en enlève très peu à chaque fois. On fait ça de façon très intelligente, je pense. C'est une sylviculture qu'on appelle aussi sylviculture douce. J'aime bien ce terme-là. Et voilà, donc en forêt, il y a un indice qu'on arrive à calculer qui s'appelle l'IBP, l'indice de biodiversité potentielle. Et ça, c'est très facile à calculer. Enfin, pour moi qui suis forestier, c'est plus facile que pour les autres, peut-être. En un quart d'heure, 20 minutes, on peut donner un état des lieux de la biodiversité et dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour augmenter la biodiversité, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas enlever, etc. etc. Mais quand on rase, alors que ce soit pour exploiter la forêt ou pour foutre des panneaux solaires, eh ben, en fait, on enlève tout ça. Et le temps que ça revienne, ça met parfois des centaines d'années. Donc on ne se rend pas compte, mais quand on fait une coupe rase et qu'on met des gros engins dans la forêt, si on ne le fait pas de façon assez stricte, les engins passent partout, ils tassent le sol, ils bousillent le sol pour assez longtemps, et puis ils enlèvent les vieux arbres, la diversité, etc., etc. Et plus une forêt est vieille, plus elle est riche en biodiversité. Plus elle augmente sa masse de biodiversité. Et notamment, il y a certains insectes qui vont se reproduire qu'à partir du moment où les arbres ont plus de 200 ans, par exemple. Enfin, où la forêt a plus de 200 ans. Donc si on enlève les vieux arbres, parce que bon, les vieux arbres, c'est bien connu, c'est moche, ça a des branches mortes, ça risque de tomber. Hein, et ben, en fait, on bousille une grande partie de la biodiversité. Donc les chauves-souris, les insectes, les champignons, enfin, on pourrait y passer un certain temps. Mais très, très, très important. Et puis,
par rapport à ça aussi, moi je pense aux oiseaux, je pense aux chauves-souris, je pense à, quand il fait 85 degrés au-dessus d'un champ de panneaux photovoltaïques, même quand c'est la nuit, ça doit encore chauffer un peu, les chauves-souris, ça doit un peu les ennuyer, quoi. Donc il y a cette perturbation-là. Alors tu nous diras si on en parle dans les études d'impact, je suis assez curieux de savoir s'ils en parlent, mais c'est vraiment très très important.
En tout cas, il y avait un article il y a quelques jours sur les oiseaux migrateurs, parce qu'en fait, ils font un voyage absolument abominable, long, qui vient d'Afrique ou je ne sais pas où. Ils arrivent enfin là où ils sont toujours venus. Tout d'un coup, ils se disent, mais dis donc, il y a un nouveau lac en bas là. Ils voient quelque chose qui brille et il semble-t-il qu'il y a beaucoup de oiseaux qui s'écrasent sur les panneaux parce qu'ils pensent que c'est de l'eau. Et un autre aspect, c'est que moi, personnellement, et je ne sais pas, j'ai vaguement vu des études, mais je me demande s'il y aura des apiculteurs autour ou proches des panneaux photovoltaïques, parce que avec ce chaleur et l'attirance par l'impression que c'est de l'eau, en fait, il grille, il brûle, et c'est aussi un impact qui reste à vraiment étudier, quoi. Je propose qu'on passe à... Qu'est-ce qu'on fait contre ?
Oui, vas-y. Juste un aspect aussi sur ces panneaux photovoltaïques en milieu forestier, c'est qu'une forêt, c'est un couvert végétal sur le sol. Et donc forcément, le sol d'une forêt, il absorbe l'eau, il absorbe tout plein de choses. Le fait de couper une forêt, ça met un sol à couvert du soleil. Et dans une forêt, les arbres ont un système racinaire en commun. C'est du maillage racinaire. C'est pas comme un arbre en ville qui va être isolé. Ils ont pas tout, voilà. Et donc, quand on vient taper sur une énorme face comme ça, on vient attaquer le système racinaire de quasiment toute la forêt. Et dans les 2-3 ans qui suivent l'installation des panneaux photovoltaïques, on voit un dépérissement accéléré de la forêt, mais sur des très grands périmètres. Et on s'aperçoit que ça s'accélère. Il y a deux phénomènes. Il y a ce phénomène-là et il y a le réchauffement climatique. Les forêts, aujourd'hui, sont en dépérissement très fort. Il n'y a pas que les panneaux photovoltaïques, il y a le réchauffement climatique. Mais le panneau solaire vient rajouter dans un milieu qui, normalement, est frais, beaucoup de chaleur. Et alors, je ne vous explique pas les risques d'incendie derrière, parce que les OLD, elles ont été repoussées à 100 mètres, puis 200 mètres, parce qu'il y a déjà des accidents à cause des panneaux solaires dans ces milieux sauvages qui sont les générateurs de feu. Et avec les principes de tout raser, de faire des débroussaillements, moi j'appelle ça plus du défrichement, parce que c'est tellement haut et ras qu'en fait on fait entrer de l'air dans ces forêts qui viennent assécher les sols, et il y a une réaction en chaîne derrière. On produit des méga-feux parce qu'on fait des OLD n'importe comment, on amène des technologies qui vont nous détruire. Voilà. Et pas que la biodiversité, c'est tout l'ensemble. Voilà.
Sylvie, peut-être tu veux reprendre. On va passer un peu maintenant avec les questions. On essaie de faire trop long pour qu'il y ait vraiment le temps pour échanger. Peut-être de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'opposer à tout ça ? On a pensé prendre l'exemple de la montagne de Lure, mais notamment avec aussi Pierre Aupontel qui vous a beaucoup accompagné, qui a développé avec vous toute une stratégie, voilà.
Oui, alors nous, évidemment, on a commencé tout au début, il y a 7 ans, la lutte, on était tout seul, on était un petit collectif, et puis un jour, les bûcherons sont arrivés et ont commencé à couper les arbres, et bon, le seul moyen qu'on a eu, c'était de se mettre face aux bûcherons pour éviter qu'ils coupent, et on n'était pas assez nombreux, ils étaient plus nombreux, ils ont coupé les arbres, enfin ça a été un drame affreux, avec même un accident d'une femme qui est tombée de l'arbre sur lequel elle était perchée, puisque le bûcheron a coupé l'arbre. Donc c'est pour dire à quel point on était démunis face à un système en face de nous extrêmement protégé par par les gendarmes, la préfecture, etc. Nous, en tant que militants, on n'arrivait plus à rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le GNSA, puisque ouais, c'était une forêt qui a été attaquée. Ça a attiré le GNSA qui nous a dit « Mais vous êtes vraiment très démunis au niveau stratégie. Il faut que vous soyez plus accompagnés. » Et ils nous ont conseillé Monsieur Pierrot Pantel, qui est là au bout de la table, et qui a commencé à prendre en main notre collectif, nos stratégies de lutte. Et donc, ce qui est très fascinant avec Pierrot, c'est qu'il a une vision globale de ce qu'est une lutte. Donc, lui, il est juriste, il est écologue, donc il a un rapport, il vous expliquera, avec la nature, le naturalisme, la biodiversité. Et donc, comme on est sur des zones naturelles, forcément, c'est une forêt, c'est que c'est naturel. Mais c'est pareil sur une lande, c'est pareil sur un pâturage, c'est pareil même sur les champs agricoles. Il y a de la biodiversité. Et il a commencé par nous expliquer la première stratégie, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau biodiversité. Donc, la stratégie juridique, la stratégie sur le terrain. Il nous a annoncé, donc je ne sais pas s'il fait ça avec tout le monde, mais nous, il nous a dit, moi, je viens m'occuper de vous, mais vous, vous êtes sur le terrain et il y a un aller-retour continu entre moi et vous, parce que moi, je vais avoir besoin de vous pour faire d'abord mes dossiers, pour aller chercher des informations. Et il est à 3 heures de route de chez nous, donc lui, il ne peut pas aller faire les investigations sur le terrain, donc c'est nous. Mais aussi, comme les recours juridiques, les plaintes, tout ça, c'est très long, tout prend un temps fou et que ce n'est pas suspensif, les travaux peuvent très bien commencer avant que le juridique soit traité. Donc, nous, sur le terrain, on est les sentinelles, on est au service d'une action de stratégie très précise juridique pour bloquer les chantiers. Et lui, il fait le boulot juridique qui permet de faire ça. Et puis, évidemment, nous, on a aussi une fonction qui est celle de trouver l'argent, parce que tout ça, ça coûte très, très cher, bien sûr. Hein. C'est pas toi qui coûte cher, c'est bien sûr... Des avocats, il y a tout un corps de métier de professionnels extrêmement compétents, et c'est tout à fait normal, qui demandent à être payés. Mais pour nous, c'est complètement juste de développer une créativité pour ramener de l'argent. Mais comme je disais hier, en fait, la stratégie au niveau de l'argent, ça a toujours été non pas de dire on va attendre d'avoir l'argent pour faire les recours juridiques, on a toujours dit on va travailler, on va aller dans le juridique, on va s'opposer juridiquement et on trouvera l'argent. Et c'est toujours comme ça que ça s'est passé. C'est parce qu'on fait des actions, on fait des actes, et là, du coup, on est suivi au niveau financier, on a des cagnottes, on a des événements qui font ramener l'argent parce qu'il y a quelque chose de concret qui est en train de se passer. D'abord, concrètement, des zones qui vont être rasées, qui vont être détruites, et on explique très bien dans toute notre sensibilisation pourquoi, comme on l'a fait là sur cette table, il ne faut surtout pas que ça se passe. Mais aussi, on donne déjà au public qui est en face de nous les stratégies qu'on va faire, et on est déjà gagnant d'avance. On annonce toujours que c'est ainsi qu'il faut faire, et pour gagner, il faut en passer par là. Et je peux dire, au bout de 7 ans et 3 ans de travail avec Pierrot, que notre stratégie marche, qu'on gagne, qu'on est en train de bloquer là, on a 7 dossiers en cours et où aucun bulldozer encore n'est arrivé, malgré le fait que sur beaucoup, ils ont déjà tous les permis. Voilà, donc je laisse la parole à Pierrot qui va vous expliquer mieux que moi tout ça.
Quand je suis triste, je donne un micro à Sylvie et tout de suite, je vais beaucoup mieux. Merci Sylvie. Alors oui, l'aspect juridique, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas parce qu'on va s'attaquer à un permis, ce n'est pas parce qu'on va s'attaquer à une dérogation espèce protégée que nécessairement, on va gagner, que les bulldozers ne viendront pas et qu'on n'aura pas la centrale devant les yeux. C'est nécessaire parce que si on ne le fait pas, ça sera très, 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 très compliqué de gagner. Mais si on fait que ça, ça ne prévoit en rien de l'absence de centrale à la fin. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on marche sur deux jambes. On marche à la fois sur la jambe juridique et sur la jambe radicale, en tout cas la jambe action de terrain. S'il faut monter sur les pelleteuses, et ce n'est pas Sylvie qui va dire le contraire, eh ben, il faut y aller. Voilà. Si on doit s'opposer à une pelleteuse, je ne parle pas de l'ancien cocktail Molotov sur la pelleteuse. Après, chacun fait comme il l'entend. Mais monter sur une pelleteuse, c'est un risque physique. J'en sais quelque chose. C'est un risque juridique. J'en sais aussi quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on arrive parfois, suivant les dossiers, à les arrêter. Il faut en avoir peut-être un peu conscience aussi de ça, parce que on est face à des sociopathes, en réalité, qui savent tout ce qu'on dit là. Ils le savent déjà. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut s'opposer physiquement. Il y a certains dossiers où il faut en arriver à s'opposer physiquement. Et ça peut préserver d'autres dossiers, puisque sur la montagne de Lure, Cruys est arrivé. Le combat de Cruys, j'ai l'impression qu'on parle de combats historiques, mais le combat de Cruys a permis aujourd'hui d'avoir comment dire, une audience, ou en tout cas d'avoir une oreille de la préfecture, de la gendarmerie. Ils savent en gros de quoi on est capable. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que dire face à la caméra « on ira jusqu'au bout, on ne va rien lâcher ». Non, on est allé sur les pelleteuses, on est allé jusqu'au bout et on n'a effectivement rien lâché, et ils le savent. Et on a finalement un pouvoir de nuisance qui est très grand. Je vais profiter de répondre à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Nick, pour ce qui est des oiseaux qui viennent se planter sur les centrales, c'était en 2022 et on a... les études, c'est la publication date de 2022, et on est sur 11,6 oiseaux par mégawatt et par an. Voilà. Ce sont principalement, par contre, des oiseaux d'eau, puisqu'ils viennent chercher le milieu aquatique. Donc voilà, c'est plus rarement des fauvettes pitchou qui viennent se scratcher sur les centrales. Je vais profiter d'avoir le crachoir pour vous parler d'un petit truc quand même qui est, je pense, important. C'est tout part d'une étude d'impact. Derrière cette étude d'impact, il y a des stratégies. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est écrit nulle part, hein, mais il y a des stratégies inavouées, des cahiers des charges obscurs, on va dire. On fait tomber les projets, la plupart du temps, sur l'aspect juridique, pas vraiment sur le permis de construire. À l'heure actuelle, c'est assez rare que les projets voient leur permis de construire annulé par un tribunal ou par une cour d'appel. C'est plutôt la dérogation espèce protégée. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous ici. Une dérogation espèce protégée, c'est un acte administratif qui permet de déroger à la protection des espèces. Parce qu'elles sont normalement protégées. Si on veut leur porter atteinte à elles ou leur habitat, eh bien, il faut déroger à leur protection. Et donc, ça demande une autorisation spéciale. Et c'est cette autorisation-là qui est finalement la plus fragile, ou en tout cas qui a le plus de failles et le plus de chances de tomber devant un tribunal. Ça, rassurez-vous, tous les services juridiques de tous les opérateurs, ils l'ont tous très bien compris. Donc, leur objectif, c'est d'arriver sur des dossiers où ils n'auront surtout pas à demander cette dérogation-là. Et c'est là, en fait, où il faut que vous accrochiez à vos sièges. Il va y avoir des turbulences. Les bureaux d'études, donc ce sont des entreprises privées, avec des écologues comme moi, voilà, qui ont le même diplôme, qui vont compter les papillons, qui vont aller compter les grenouilles, les lézards osselets, et les oiseaux et les chiroptères, et les mammifères aussi, non volants. Et ils vont faire leur étude d'impact. Ils vont commencer par la bibliographie, ils vont ensuite aller donc sur le terrain, faire des comptages, des inventaires, ensuite rendre compte de tout ça, analyser les enjeux, ensuite analyser les risques, et enfin arriver à ce qu'on appelle le risque résiduel après application des mesures ERC, éviter, réduire, compenser. Alors, pour le petit truc, c'est que l'analyse des risques résiduels se fait qu'avec E et R, éviter et réduire. On ne compense pas. Si on doit compenser, il faut une dérogation. Donc là, vous avez peut-être compris que s'il faut compenser, ça veut dire dérogation. Eh bien, on va essayer d'arriver à une situation où il n'y aura pas à compenser, parce que sinon, il faudrait une dérogation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir à compenser ? Eh bien, on se débrouille pour avoir un risque résiduel qui soit nul ou négligeable, non caractérisé, si on s'en suit à la jurisprudence, non caractérisé. Et pour ça, il faut remonter la chaîne. Vous savez, je vous ai dit, on analyse le risque, on analyse les enjeux, et puis on fait les inventaires. C'est boule de neige. C'est-à-dire que dès le départ, la bibliographie, j'ai des dossiers comme ça, je prends exemple dans les Alpes, c'est pas avec toi, dans les Alpes-Maritimes, un dossier où le bureau d'études, je ne vais pas le nommer parce qu'après ils me poursuivent en justice, donc je ne le fais pas. Enfin, quoique là, je dis que la vérité, c'est vrai. Et donc, bref, le bureau d'études a dit qu'ils avaient fait la bibliographie. Or, il y a une plante protégée très rare qui était sur le site, et ça fait 120 ans qu'on savait qu'elle était sur le site. C'était la plus vieille donnée, c'était celle-là. Eux ont dit qu'ils avaient fait la biblio, mais elle n'y était pas. Bon. Le Conservatoire botanique national était venu, méditerranéen, était venu refaire des inventaires, avait fait un rapport, etc. Tout ça payé par vous. Et ben, non, ils ont quand même dit que la plante n'y était pas. Évidemment, l'administration, opiné du chef, a dit c'est très très bien, vous pouvez commencer vos travaux. Hein. Donc voilà, pour montrer déjà que la bibliographie, parfois, elle est bien pourrie. Quoi. Ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils font. Ensuite, vous avez les inventaires de terrain. Et là, au niveau méthodologique, vous pouvez biaiser tout ça. Vous pouvez biaiser en, par exemple, vous pouvez aller chercher les orchidées au mois de mai. Ça, c'est facile, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, ou très peu. Finalement, c'est pas là qu'on va plus les trouver. Mais vous pouvez dire, après, dans votre rapport, nous avons cherché les orchidées pendant 3-4 jours. Eh bien, il n'y en avait pas. Et vous pouvez faire ça, et bien ça, vous pouvez faire ça avec toutes les espèces, avec tous les groupes, tous les taxons. Hein. Malheureusement, je dois vous avouer que c'est ce que je constate, moi, la plupart du temps, sur les dossiers. Ce sont des erreurs, mais qui, pour des professionnels, parce que, rappelons-nous, hein, ce sont des gens qui sont payés plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire ce travail-là. Pour des professionnels, c'est pas acceptable. C'est aller les chercher les oiseaux mars, avril, mai. Ben non, c'est pas suffisant. Il y a des hivernants. Il faut venir en janvier, février. Il y a des migrations postnuptiales à l'automne. Les chiroptères, ils y vont avec leur capteur chiro, et puis c'est tout, pendant une ou deux nuits. Ça ne marche pas comme ça. Il faut poser des enregistreurs, ça peut, pendant plusieurs jours, à différentes périodes. Bon, bref, tout ça, normalement, c'est sous le contrôle de l'administration, qui, évidemment, ne contrôle rien du tout. Enfin, qui dit oui à chaque fois, qui dit amen. Vous avez compris que quand vous ne cherchez pas toutes les espèces, vous ne les trouvez pas toutes. Et in fine, les enjeux écologiques, eh ben vous ne les avez pas non plus. Si vous ne cherchez pas le lézard osselet, parce qu'il est compliqué à voir, ben vous ne le voyez pas, et donc il n'y est pas. Et donc vos enjeux, ben il s'en tient à un lézard des murailles, et plus au lézard osselet. Au niveau d'enjeu de lézard osselet, il est maximum. Quand vous partez de cet enjeu-là, ici et pas là, ben déjà, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir à demander, d'avoir de mesures compensatoires. Puisque le niveau d'enjeu, il est très bas. Le niveau de risque, souvent, ils le font associer au niveau d'enjeu. C'est-à-dire qu'ils disent que les risques, bon non, en fait, il n'y a pas vraiment de risque, parce que l'espèce, il n'y a pas vraiment un gros enjeu. Donc, les risques sont faibles aussi. Avec trois petits tas de cailloux qui serviront aux reptiles, pour rester sur le fil des reptiles, ben c'est bon, avec mes trois petits tas de cailloux, le risque résiduel, il est insignifiant. Et ils font ça avec toutes les espèces. Voilà. Je n'ai malheureusement pas, j'aimerais, parce qu'on me le dit souvent, on me rétorque, oui, mais là, tu t'attaques à toute la profession. Ben, j'aimerais avoir un contre-exemple. J'aimerais pouvoir dire, ben non, effectivement, dans ce dossier-là, le bureau d'études a fait un travail exemplaire. Ils ont été parfaits, j'ai rien à dire. Moi, quand la Coordo photorévoltée m'envoie des dossiers, alors souvent, c'est les plus compliqués. Donc bon, il m'envoie un dossier, je regarde, je dis attendez, avant de vous envoyer un devis, je vais d'abord regarder si je peux vous aider. En fait, je les aide à chaque fois. Enfin, je peux rédiger quelque chose à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est des erreurs, des omissions, du grand n'importe quoi. Et là, je vous parlais que de la méthodologie, mais les mesures ERC qui sont proposées, elles aussi, elles sont bidonnées. Par exemple, vous avez des mesures compensatoires qui sont déguisées en mesures de réduction pour pouvoir les appliquer et pouvoir dire, regardez, le risque résiduel, il s'est vachement réduit parce que ma mesure, elle est super top. Mais oui, mais ta mesure, c'est de la compensation. Donc, ça veut dire que si tu compenses, bah, il te faudrait une dérogation. Voilà. Bon, c'est fini. L'atterrissage est arrivé, c'est bon. La pierre angulaire des dossiers, c'est souvent l'étude d'impact. Et les tribunaux, on a le cas souvent sur la montagne de Lure, Et ça, bon, il faut faire le travail comme il faut, mais parfois on est tributaire aussi des magistrats. Ils sont comme ils sont. Voilà, ma sœur est magistrate. Ils sont comme ils sont. Et ben, des fois, ils disent n'importe quoi. Même si on leur apporte tout sur un plateau, ils continuent à dire n'importe quoi. On a eu ce problème sur un dossier avec la Cour administrative d'appel de Marseille. Mais il faut ne rien avoir à regretter. Et ne rien avoir à regretter, c'est analyser de manière la plus précise possible une étude d'impact pour pouvoir dire là, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Finalement, non, il aurait fallu une dérogation. Voilà. J'arrête là.
C'est particulièrement incroyable parce qu'il y avait un incendie il y a une vingtaine d'années. C'est un terrain quand même pauvre, mais n'empêche, ils ont 100 000 euros, ils ont payé pour replanter l'ONF avec des cèdres. Les cèdres, ils ont monté, pour ceux qui ont vu le film l'autre jour, on les voit bien, ils sont quand même déjà quand même des arbres. Et on a coupé 100 000 euros de plantation quelques années après. Et ce qui est assez incroyable, c'est l'ONF qui était favorable. Pourquoi ? Parce que l'ONF peut continuer à recevoir les frais de garderie parce que ce parc photovoltaïque reste dans le régime forestier, reste géré en quelque sorte par l'ONF. Et donc, c'est 10 à 12% des revenus. Et on a déjà compris, je pense, que c'est considérable, les revenus pour un hectare. 10 à 12% va à l'ONF. Malgré le fait qu'il n'y aura pas un seul arbre sur le terrain pendant au moins 30 ans. Voilà. Donc, peut-être tu peux développer un tout petit... Apparemment, c'est en train d'être un peu questionné, cette histoire-là. Et il y a une autre histoire impressionnante que tu peux peut-être raconter, c'est les distractions.
Oui, les forêts publiques de l'État et des collectivités locales sont censées être encore plus protégées et d'intérêt général que les autres forêts. Et donc, il y a des textes qui sont encore plus précis. Mais la pression est telle aujourd'hui qu'on s'aperçoit sur le terrain qu'on est en train de tourner les difficultés, comme ça vient d'être dit. Alors, sur les frais de garderie, c'est un problème un peu particulier. C'est que dans la loi, on dit effectivement que l'ONF est rémunéré sur ses prestations auprès des communes par un pourcentage sur le produit de la parcelle. Alors, cette prestation... elle est, en ce qui concerne la forêt, modeste. En forêt domaniale, l'Office des forêts garde la totalité des recettes. En forêt communale, il ne garde que 10 à 12% des recettes. Et quand on est dans des forêts peu productives, c'est peanuts. Mais la loi dit... tant que la forêt est classée forêt, tous les produits de cet espace sont éligibles aux frais de garderie. Et donc, pour l'ONF également, c'est un pactole, puisque effectivement, d'un seul coup, au lieu d'avoir une forêt qui ne produit pas grand-chose en bois, d'un seul coup, elle a effectivement des panneaux photovoltaïques qui lui rapportent effectivement beaucoup d'argent. Donc ça.
Oui, mais est-ce qu'on peut continuer à classer un espace forêt alors que c'est des panneaux de...
Le problème, c'est que c'est le foncier qui supporte la forêt qui bénéficie du régime. C'est ça le problème. C'est-à-dire, tant que c'est... c'est tellement aberrant qu'un maire d'une commune qui, lui, avait déclenché un projet photovoltaïque pour remplir les caisses de la commune a été horrifié de voir qu'une partie de l'argent partait dans les caisses de l'ONF. Donc, il a attaqué en justice. Et il a gagné.
Tu m'étonnes.
Il a gagné. Et donc, c'est remonté jusqu'au Conseil d'État qui a dit que non, là, trop, c'est trop. On ne peut pas prélever des frais de garderie sur ce type, effectivement, d'opération. Donc, est-ce que ça va rebondir ? Pour l'instant, il y a une jurisprudence qui arrête le processus. Mais il faudra effectivement être vigilant parce que ce n'est pas normal. L'autre aspect, c'est la distraction du régime forestier. C'est-à-dire qu'une forêt communale, dès lors qu'elle a un enjeu de production de bois, d'environnement ou de rôle social, obligatoirement, elle est gérée par l'ONF. Donc ça, c'est la loi, et ça a été confirmé. Il y a des communes qui ont essayé de casser ce système. C'est remonté constitutionnellement. Ce dispositif a été validé encore récemment. Le problème particulier, c'est qu'on s'aperçoit sur le terrain qu'on arrive à distraire ce régime forestier pour implanter des panneaux photovoltaïques. Hein ? Voilà, distraire, ça veut dire effectivement qu'on enlève le régime forestier, c'est-à-dire on enlève la protection du régime forestier, et donc l'ONF ne peut plus effectivement gérer la forêt. Alors c'est juridiquement un scandale, puisque autant les lois depuis plusieurs siècles actent effectivement cette obligation, il n'y a aucune loi et aucun décret qui prévoit et qui organise qu'on peut sortir du régime forestier.
Moi, personnellement, j'ai découvert, je crois toi aussi d'ailleurs, 40 hectares dans le Var, hein, où on a reçu des échanges de mails, etc. Quelqu'un qui, face à cette question de distraction, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est assez nouveau, mais ça montre ce que les entreprises et peut-être même quand même les autorités sont prêts à faire pour libérer des espaces, pour faciliter l'arrivée des parcs photovoltaïques. Alors, oui.
Et ça permettait effectivement, en distrayant, en enlevant le régime forestier, il n'y avait plus de frais de garderie.
Ouais. Alors, s'il n'y a pas de rajout très important, on pourrait. Hein, vas-y, Yann.
Juste pour dire que, aussi pour lutter contre ce genre de choses, je vous conseille d'acheter de la forêt. Alors achetez-la vous-même, achetez-la en collectif ou donnez de l'argent à Forêt en Vie qui achètera des forêts pour vous et qui les mettra à disposition d'un collectif, enfin d'une association qui s'engage sur un cahier des charges que nous on a créé qui s'appelle un bail forestier. C'est tout nouveau. Enfin, nous, on a un bail forestier pour nos forêts. On a malheureusement que 100 hectares aujourd'hui, mais c'est en train de monter. Et donc, ces forêts-là, on les met sous bail à une association qui s'engage à respecter ce bail avec un cahier des clauses environnementales aussi qui est assez pointu et précis. Et du coup, dans ces forêts-là, nous, on n'a pas prévu de mettre des panneaux solaires, hein, bien entendu. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas se faire couillonner, entre guillemets, si jamais c'est d'intérêt public et qu'on peut se faire exproprier ou pas ? À toi, tu peux en parler.
Ouais, je peux en parler parce que nous, sur notre territoire, moi, j'ai participé à la création de deux ORE. ORE, ça veut dire obligation réelle environnementale. Donc, ce sont des forêts qu'un propriétaire a achetées et qui passent un acte notarié d'ORE, et ces forêts sont sous cloche pendant 99 ans. Chacun fait son choix et choisit comment il va gérer, s'il veut prendre du bois, s'il ne veut pas en prendre. Mais là, dans ce cas-là, c'est des forêts qui sont laissées complètement à l'abandon, je dirais. En libre évolution, ouais, c'est plus joli. Hein. J'ai cherché le terme. Moi, j'adore. Mais l'effet pervers, c'est que si un projet d'intérêt général arrive sur ce territoire et doit passer par ces forêts, eh bien, il passera par ces forêts. Eh ouais. Eh ouais. À toi maintenant.
Ça dépend le projet. Non, mais quand je dis ça dépend, c'est que ça peut pas être une centrale photovoltaïque puisqu'elle pourra se faire ailleurs. Une route, c'est un autre débat, parce qu'effectivement, si la route doit passer, là, c'est autre chose, parce que voilà. Mais ils chercheront inévitablement quand même à la faire passer ailleurs que sur l'ORE. Voilà.
Je propose que si vous avez des questions, des éléments à rajouter, on pourrait commencer un échange avec vous. On a encore une heure. Nous, on aurait plein d'autres choses à dire, hein, mais je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir. Voilà.
Bonjour. Nous, on est de Haute-Corrèze. Alors, ça serait plutôt une question pour Pierrot, le juriste. Pour comment récupérer les études d'impact le plus rapidement possible, parce que c'est là aussi que ça se joue, du coup. Et alors, nous, je sais, enfin, voilà, c'est du cas par cas, mais je pense que ça va intéresser d'autres personnes. On sait qu'elles sont à la mairie. Le maire les a. Je lui ai demandé. Il m'a dit, OK, mais tu viens, d'abord, tu me préviens quand tu viens. Tu viens les consulter à la mairie. Ça ne sort pas de la mairie. Et vu que notre mairie, nous, est ouverte que les jeudis, hein, donc il faut que je prenne un jour de congé tous les jeudis pour aller consulter le truc qui doit faire 300 ou 400 pages. Voilà, que je ne vais rien biter d'ailleurs. Et vu que je ne pourrais pas sortir les documents, ben, bon, voilà. Donc voilà, est-ce que je peux l'obliger à me, en fait, est-ce qu'il a le droit de m'obliger à venir les consulter uniquement en mairie ou en fait, jeudi, quand je vais arriver, je vais dire, ben, en fait, je les prends, je m'en vais. Merci, au revoir. Et comment je peux le forcer à ça ? Pour les récupérer tôt, pour pouvoir voir avec les gars de la Cordo, quoi. Merci.
Déjà, si vous le, bonjour, si vous le proposez, c'est que vous y êtes prête, ce qui est déjà très, très bien. Oui, alors, ça tombe sous le sens. 124-1, je crois, du Code de l'environnement, vous avez accès à toutes les informations qui vont influer votre propre environnement, etc. Bon, oui, évidemment que vous avez le droit à ces études. Vous pouvez aussi aller à la mairie et prendre en photo toutes les pages. Hein. C'est aussi possible. Mais ce qui serait rigolo à faire, effectivement, ça serait de partir avec. Et ben là, ça serait compliqué pour lui, parce que... Alors, je fais attention. Vous avez le droit de disposer de l'étude d'impact. Mais après, si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez sortir de la mairie en courant avec l'étude, de bras sur le, l'étude d'impact sous le bras. Ouais. Alors... Non. Non. Mais d'ailleurs, ça serait très intéressant. Alors, hop, stratégie. Ce que je vous proposerais dans un cas comme celui-là, ça serait de faire un mail officiel à votre maire, de lui demander l'accès. Il vous répond. Peut-être que ça a déjà été fait. Par mail ? Alors, le mail, vous lui répondez, vous mettez en copie le secrétaire de la préfecture. Okay. Vous mettez en copie la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Ouais. Vous mettez en copie, vous faites-vous plaisir sur les copies en fait. Ouais. C'est ça l'idée, vous avez compris. Et vous lui dites, j'estime avoir accès. À la rigueur, vous viendrez me voir après, je vous donnerai les articles. Vous avez accès à ces documents et c'est pas à sa libre discrétion à lui. Hein, c'est vous qui avez accès. Sinon, vous pouvez aussi les demander à l'administration qui en dispose. Mais si lui il les a, il peut vous les donner. Mais l'administration est tenue de vous les communiquer.
La DDT ou la préfecture ou
Alors la DDT, c'est la préfecture, mais oui, la DDT. Vous demandez à la DDT...
J'aurais demandé, ils m'ont dit, allez voir votre commune, votre mairie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cons, les mecs, non plus.
Eh ouais. Et ben...
D'accord, mais non, mais c'est juste pour savoir, en fait, s'il il pouvait m'obliger à venir
non.
Consulter sur place. Si moi, je suis dans mon bon droit de dire non, je les veux, en
non.
fait.
Non, ouais. Vous okay. y avez droit, ils doivent vous les communiquer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont accessibles, ils doivent vous les communiquer.
Et oui, donc en fait, il a le droit, parce que là, il me les communique.
Non, ce n'est pas pareil. Là, il vous y donne accès, mais il faut qu'il vous les communique. Ce n'est pas, c'est pas tenable de pouvoir consulter une étude d'impact qu'aux horaires d'ouverture d'une commune, c'est pas, enfin, de la mairie, ce n'est pas possible.
D'accord, voilà. Ok. Ça marche, merci.
Mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. l'idée, c'est d'être le plus casse-couille possible.
Oh, bah ça, on sait faire, ça.
Oui, juste pour compléter, en fait, nous, on s'amuse beaucoup avec Pierrot parce qu'il a ce truc-là, on lui pose une question, il dit, voilà, stratégie, toc, toc, vous faites ça, nanana. Et donc, il faut s'attendre, par exemple, quand il y a comme ça un document qu'on n'arrive pas à avoir ou qu'il n'arrive pas à avoir, lui, pour ses démarches juridiques, à des stratégies genre... On est une dizaine du collectif à écrire tous un mail, donc avec toutes les copies machin, au directeur de la DDT ou machin. Donc on commence par les mails, on écrit tous, boum. Puis après il nous dit bon on attend une semaine, deux semaines, ok. Et après on téléphone. Alors il arrive à avoir les téléphones privés, donc les les portables, et on y dit ça harcelait. Donc au bout d'une journée, ben tout est coupé, les téléphones à la préfecture et tout ça, parce qu'ils en ont marre de recevoir plein de coups de fil. Mais en fait, cette stratégie, elle fonctionne juste parce qu'au bout d'un temps, ils en ont vraiment, ils n'en peuvent plus de recevoir des coups de fil, de devoir bloquer leur téléphone, de tout ça. Et on finit par avoir les documents. Donc, en fait, il y a ça aussi dans les stratégies de lutte de terrain avec le juriste, c'est d'être prêt à faire du harcèlement de l'administration. Non, ce n'est pas de l'harcèlement. Bon, ben d'accord.
C'est du pénal, Sylvie, pour le harcèlement. Donc non, ce n'est pas du harcèlement. Voilà, c'est ça. On exprime notre volonté à de multiples reprises. Et très clairement, ça fonctionne. Non, mais en fait, il faut aller, pour faire un petit pas de côté, il faut aller à l'encontre de ce qu'on est toutes et tous ici. On est tous des gentils, on est tous, la plupart du temps, respectueux de la loi, et on a du mal à franchir ce pas, comme Sylvie montait sur la pelleteuse. C'était pas quelque chose de naturel chez toi, peut-être que si. Délinquante que tu es. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas habitué à ça. C'est pas dans nos habitudes de franchir la ligne. Et rien que ça, on a l'impression que c'est franchir la ligne, passer des coups de fil et forcer les gens à finalement faire quoi ? Leur travail, respecter la loi. On leur demande juste de respecter la loi, c'est écrit dans la loi. Hein. Plus une convention internationale, la convention d'Aarhus, qui les oblige à ça. Bon. Donc, convention internationale, la loi, bon, à un moment donné, et c'est que le début du combat, là, hein. C'est juste pour avoir les dossiers, c'est tout. Ça a à peine commencé, là.
Merci, bonjour à toutes et à tous, et puis merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je voulais juste faire un petit témoignage et puis poser une question. Je suis une Nantaise et en cours d'installation dans le Lot. Et donc, je voulais parler d'une lutte victorieuse pour vous donner plein de courage, parce qu'à Nantes, on avait quand même la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est notamment... Enfin, c'est grâce à la convergence des luttes, d'accord, mais c'est notamment grâce aux luttes des naturalistes pour la protection de deux espèces que vous ne connaissez probablement pas ici, moi je ne les connaissais pas non plus, c'est le campagnol amphibie et le triton crêté. C'est quand même grâce à ces deux espèces qu'on a réussi, encore une fois, il n'y a pas que ça, mais ça a beaucoup joué à faire abandonner ce grand projet inutile. Donc, continuez, parce que voilà, on a quand même réussi à faire abandonner ce projet. Ça, ce qui a marché aussi, c'est évidemment la lutte de terrain. Et là, vraiment, encore merci à toutes les personnes qui ont le courage d'aller sur le terrain, de s'opposer aux machines et de grimper dans les arbres, etc. On a un autre projet à Nantes là, qui nous pèse beaucoup, qui est à la fois un projet de défense de l'environnement et un projet de défense des droits humains, qui est que l'État veut construire un centre de rétention administratif à Nantes, donc déboiser une magnifique forêt de 5 hectares pour construire une prison pour enfermer des gens simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc c'est juste insupportable. Et donc évidemment qu'il faut lier les luttes écologistes avec les luttes sociales, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est un syndicaliste brésilien, Chico Mendes, qui disait l'écologie sans justice sociale, bah, c'est du jardinage. Donc nous, on ne fait pas du jardinage ici, on va vraiment s'occuper de ces questions, mais donc il y a vraiment de l'espoir à défendre sur le terrain juridique et sur le terrain des luttes, en s'opposant physiquement, faisant ce qu'ils appellent de la désobéissance, sauf que c'est l'État qui se désobéit à lui-même, puisque là, par exemple, l'État s'autorise, se signe lui-même les permis de construire, alors qu'il n'a pas le droit de construire ce genre d'établissement sur cette terre qui est boisée. Bon, voilà. Et ma question, elle est plus locale et plus peut-être plus intéressée. Je viens d'acheter donc un bout de forêt dans le Lot, qui est un espace boisé classé. Et je me demandais si ce classement en espace boisé classé, c'était que du greenwashing, comme on dit, ou si ça pouvait être quelque chose qu'on développe à fond pour protéger justement les forêts.
Alors ça, c'est un élément du PLU, l'espace boisé classé, EBC, qui stipule que vous pouvez, que si vous voulez faire quelque chose dans votre forêt, vous êtes obligé de faire une demande à la mairie. C'est la mairie qui va vous répondre et qui va vous dire si vous êtes OK ou pas. Sauf si vous avez un document de gestion durable de votre forêt, donc il en existe plusieurs, et si vous avez ce document de gestion durable, À l'intérieur, vous avez un tableau des coupes et travaux, par exemple, si vous avez des choses à faire chez vous, et vous n'êtes pas obligé de passer par la mairie pour faire ce que vous voulez faire dans votre forêt. C'est un classement dans les PLU pour un peu protéger, on va dire, l'espace paysager autour d'une commune ou autour d'un bâtiment, enfin aussi autour d'une commune qui a des bâtiments patrimoniaux, par exemple. Je pense notamment à Gourdon, par exemple. Gourdon, c'est une ville qui est sur une hauteur et autour, ils ont mis plein d'espaces de BC. Et donc, les gens, ils ont le droit de faire des coupes quand ils ont un document de gestion durable qui est agréé par les services de la DDT et du CNPF, du Centre National de la Propriété Forestière. Voilà. Mais c'est pas forcément un super outil pour protéger la forêt. Il vaut mieux gérer sa forêt intelligemment et demander conseil à des forestiers qui ne sont pas des exploitants. Parce que souvent, on demande à des gens qui coupent de la forêt, c'est pas bon. Il faut demander à des gens qui n'ont pas d'intérêt économique dans l'histoire. Et il y en a, il y a le CNPF, il y a la Chambre d'agriculture, il y a une association très bien dans le Lot qui s'appelle Cœur de Forêt, avec qui on travaille beaucoup, etc. Et il y a des gestionnaires forestiers privés, dont certains sont super. Mais lui, il est un peu loin.
Juste, vous avez dit naturaliste. Je pense que ça, on n'a peut-être pas assez mentionné. Il y a un rôle très important à l'URE, parce que les naturalistes sont venus et ils ont trouvé des espèces protégées qui n'étaient pas mentionnées dans la première liste. Enfin, un peu mentionnées, mais là, la naturaliste, il fallait trouver. Il y a des gens qui sont venus bénévolement. Et autre chose, c'est Loïc qui est présent, il a pu mieux expliquer. Mais en tout cas, la coordination, vous avez peut-être déjà compris, peut-être pas, mais la coordination nationale photorévoltée, les plus importantes activités, c'est vraiment de mettre en place d'abord une cellule juridique, des avocats. Il y a quatre permanentes, c'est des femmes avocates, quatre, je crois, mais il y a 20-30 qui sont d'accord et intéressés de travailler avec la coordination, parce qu'en fait, il et elle, ils ont besoin de développer l'argumentaire, de comprendre quelque chose qui est nouveau, quoi. C'est vraiment un phénomène nouveau. Et donc, il y a la cellule également de naturalistes créée par la coordination, avec des. Parfois, c'est des naturalistes qui doivent être payés, parce que, voilà, parfois, c'est plutôt des bénévoles. Mais en tout cas, il y a la volonté, mais ce n'est pas encore, je crois, là tout à fait, mais de faire une cellule agronomique, pour suivre de près l'impact de l'agrivoltaïsme sur la production agricole, soit des fruits, soit des bêtes, des animaux. Donc il y a vraiment... je tiens à insister un tout petit peu. Suivez un peu ce que fait la coordination. On voyait un peu dessous de temps en temps, parce que franchement, Loïc, il est beaucoup trop seul en tant que salarié. C'est un travail monstre, en fait. Parce qu'il y a tellement là, évoqué tellement de sujets là, avec la température, avec enfin, tout le reste. Tout ça a besoin d'études scientifiques, etc. Donc, voilà. Si vous avez des avocats, vous connaissez des avocats qui sont très, très impliqués, essayez de les faire participer à cette cellule d'avocats, enfin, etc. Voilà. C'est un pub pour la coordination.
Moi, j'ai deux questions. La première, c'est la loi APER oblige sur les sols forestiers, agricoles ou naturels, si on n'est pas dans le cas de l'agrivoltaïsme, on rend ce qu'on appelle l'agricompatible. Et donc là, la préfecture est obligée de sortir un document cadre qui a été souvent préparé par les chambres d'agriculture, examiné par les CDPNAF et avalisé par le préfet. Aujourd'hui, un champ photovoltaïque sur surface forestière doit correspondre à ce document cadre. Point d'interrogation. Deuxième chose, dans le cadre, et ça concerne nous, d'un recours sur un permis de construire sur 17 hectares de forêt, dont 2 hectares et demi qui ont bénéficié des exonérations fiscales, à Darnay, à côté des Gletons, en Corrèze. Donc c'est une demande de permis de construire précédant la loi APER, je le précise. que le préfet n'avait pas signé. L'énergéticien qui s'appelle Energy Green a attaqué la non-décision du préfet et ils ont gagné au tribunal administratif de Limoges. Ce qui nous oblige aujourd'hui d'attaquer le permis de construire et dans le cadre, avec l'avocat que nous avons choisi, qui est l'avocat qui a, un des deux avocats qui a gagné contre l'extension de la scierie Farge-Pifetot à Aigleton, pour ceux qui Canopé connaît bien. Je veux dire, à un moment donné, l'avocat nous demande de repérer les zones humides sur les 17 hectares. Mais pour qu'il puisse l'utiliser, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, il faut que ce soit attesté par un huissier. Le problème, c'est que l'huissier nous répond, moi, je ne rentre sur un terrain privé que si j'ai l'accord du privé, autrement, je ne viens pas. Voilà le et comment est-ce qu'on échappe à ça, quoi?
Eh ben, ce que vous dites, je vais répondre à la fin de votre question là, mais ce que vous dites, c'est ce à quoi on est confronté, pas qu'avec les zones humides, mais aussi avec les espèces protégées, tout simplement. Et ça demande des contorsions stratégiques pour réussir. Alors, les zones humides, c'est un peu particulier, parce que pour aller caractériser une zone humide, c'est soit la pédologie, soit la végétation. Mais ça demande nécessairement d'aller sur place. On peut inventorier des piafs à plusieurs centaines de mètres, par exemple. Bon, là, c'est plus compliqué d'aller regarder les petites plantules à la longue vue, quoi. Donc, sur une situation comme ça, moi, ce que je vous conseillerais, c'est déjà, premièrement, de regarder si c'est clôturé. Est-ce que ça l'est pas ? Est-ce qu'il y a des panneaux qui indiquent que c'est une propriété privée ? Alors, dans ce cas, pour moi, je prends des précautions, vous pouvez accéder à la parcelle. Et voilà, parce qu'on ne pourra pas vous reprocher d'être entré sur une propriété privée à partir du moment où ce n'est pas indiqué. Et j'ai été relaxé grâce à ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que l'infraction, c'est celle pour laquelle Sylvie a été poursuivie, qui était de pénétrer sur une parcelle rurale ou forestière dont les limites sont délimitées, sur une propriété privée dont la parcelle est délimitée, tout ça. Donc si ça ne l'est pas, nécessairement, on ne rentre pas dans le cadre de ce délit. Donc, moi, je vous conseillerais. Et puis, à un moment donné, il faut quand même. Enfin, on n'a pas le choix, quoi. Oui, non, mais je sais. C'est pour ça que nous, on ne peut plus travailler avec des huissiers, en réalité. Si ce n'est sur des constats très précis, on a fait des constats sur la montagne de Lure par rapport aux spots lumineux qui peuvent, de fait, être constatés sur des parcelles, enfin, en tout cas, sur des chemins publics. Mais pour tout ce qui est de constats en parcelle privée, effectivement, vous ne trouverez aucun huissier qui rentrera. Donc là, ça veut dire que, si je devais vous donner un conseil, ça serait de vous rapprocher soit d'un bureau d'études, soit d'un indépendant dont les compétences sont reconnues. Il ne faut pas que vous ayez cherché Madame Michu, pâtissière du village d'à côté, qui va vous dire « Ah non, mais je vous dis que c'est une zone limite. » Donc il ne faut pas que ça soit ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un dont les compétences vis-à-vis du magistrat pourra dire « Oui, effectivement, Monsieur Durand, il a les compétences reconnues pour identifier une zone humide. » Et si cette personne est OK pour venir avec vous et attester de secteurs qui seraient humides pour telle et telle raison, avec photo à l'appui et compagnie, enfin, qu'il fasse un rapport, alors évidemment, voilà, ça va demander rémunération. Donc je le dis parce que des fois, les gens ont l'impression que tout est gratuit. Mais ça va demander des compétences qui sont très particulières. Et donc voilà, moi, je vous conseillerais de vous rapprocher d'un professionnel de l'identification de zones humides qui, lui expliquer la situation. Voilà, on a un huissier qui ne veut pas rentrer. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, faire venir un commissaire de justice, parce que c'est ça leur vrai nom, faire venir un commissaire de justice pour identifier une zone humide, il va me dire, oui, c'est vrai, mais mes souliers vernis sont trempés. Voilà. C'est, à la rigueur, c'est ce qu'il pourrait vous dire.
Les industriels vont plutôt aller là ou sur les parcelles répertoriées dans le document cadre, mais ils ont tout à fait le droit d'aller ailleurs. Ça, c'est juste qu'ils auront plus de démarches administratives à faire. Ce ne sera pas allégé dans les zones en dehors du document cadre. Mais le document cadre, il ne protège rien. Il facilite l'accès des industriels. Mais après, ils peuvent aller partout où ils veulent, mais c'est juste que ce sera moins facile pour eux, c'est tout.
Je peux me permettre donc d'intervenir. Voilà, je voulais juste réagir. Personnellement, moi, je suis un peu surpris, voilà, un peu gratte-poil par rapport à ce que j'entends. C'est-à-dire que moi, quand on me dit que les projets agri-photovoltaïques servent à sauvegarder l'environnement ou répondre aux attentes de réduction du carbone, j'ai envie de faire une action juridique contre tous ces gens qui disent ça. En fait, moi, j'ai envie je joue pas au jeu de GIEC a dit. Vous savez, GIEC a dit fait de la biomasse, GIEC a dit fait des agrocarburants, GIEC a dit fait des stockages de carbone, GIEC a dit fait du nucléaire, GIEC a dit fait de la géoingénierie, GIEC a dit fait des énergies renouvelables en milieu capitaliste, en milieu extractiviste capitaliste. Moi, j'ai pas envie de jouer à GIEC a dit, quoi. Et du coup, moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'action juridique mais non, en fait, tout ce que vous dites là, Ça sert pas des actions environnementales. Par exemple, pour une action environnementale, on pourrait dire relocaliser notre société, relocaliser l'économie, se rendre service en local, c'est le plein emploi, c'est la solution à tous nos problèmes énergétiques, c'est la solution à tous nos problèmes. Mais le GIEC, il a jamais dit ça, quoi. Le GIEC, il propose pas ça. Le GIEC, il propose tous ces trucs qui sont dans les mains des multinationales. Donc, moi, je n'ai pas envie de jouer à ce truc. Et voilà, je comprends très bien la nécessité locale de s'intéresser aux espèces protégées, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une coordination, on ne fait pas quelque chose de plus global pour voir qu'en fait, y a tout le temps le même problème à la source. C'est qu'on ne nous propose que des fausses solutions. C'est le faux dilemme. Est-ce que tu veux une glace à la courgette ou tu veux une glace au potiron? Mais si on vous le répète 100 fois, en fait, à la fin, vous allez admettre qu'il n'y a plus que des glaces au potiron et à la courgette. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Donc, voilà. Donc, c'était pour faire ce petit...
Alors, effectivement on commence à faire des actions juridiques pour contester cette usurpation, effectivement, du bilan carbone et du bilan d'intérêt général. Donc ça se fait, c'est en train de se faire sur les gros projets de carburant. Ça s'est fait sur Gardanne déjà. Canopé s'est engagé avec FNE, avec SOS Forêt, avec Greenpeace. Donc ça commence à se faire. Et en parallèle de ces montées en puissance sur le plan juridique, où il va bien falloir poser le problème de l'intérêt général, qui est un problème politique, en complément de ces actions juridiques, il faut effectivement poser le problème au niveau national. Donc là, actuellement, tous les collectifs locaux, à l'initiative d'ailleurs des collectifs du réseau Forêt Limousine, avec le collectif Forêt Vivante des Pyrénées, on a agrégé tout un groupe de collectifs en lutte contre ces projets pour lancer une mobilisation nationale à Paris pendant la présidentielle. Donc en mars, ce que l'on veut, et je fais un appel à vous tous, on n'a pas encore complètement arrêté les dates, on est en train de caler l'organisation, mais ce que l'on veut faire, c'est qu'en mars, à une date qu'on va arrêter, on va faire monter des représentants de tous les collectifs locaux. On a l'accord des ONG nationales, de Canopé, de FNE, de Greenpeace, de Rester sur Terre. Donc on est en train d'agréger effectivement les collectifs locaux et les ONG nationales pour faire une grosse manif pour poser cette problématique au niveau politique.
Oui, merci pour vos interventions. Et merci aussi, c'est vrai que moi j'avais pas conscience que les projets photovoltaïques se passaient quasiment sur 50% de sol forestier. Et c'est vrai que le dépérissement de la forêt, il est hyper hyper important dans toutes les régions. Et donc du coup, on peut se dire que c'est un peu la porte ouverte au photovoltaïque dans les prochaines années et aussi à la biomasse, enfin en tout cas au projet de coupe rase pour alimenter des biomasses et des structures comme Biosil, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe dans beaucoup de territoires aussi. Et donc c'est vrai qu'on en parle peut-être pas, mais en fait une fois que la forêt est rasée, à quoi sert le bois qui a été extrait? Est-ce que ça alimente de la biomasse? Est-ce que ça alimente plutôt la filière bois d'œuvre pour construire et stocker du carbone? Je crois pas. Et donc du coup, en fait, c'est des processus industriels qui s'auto-alimentent et qu'il faut dénoncer. Il y a le photovoltaïque, mais il y a la biomasse aussi qui arrive dans l'échiquier. Et du coup, je me demandais aussi comment on pouvait peut-être sensibiliser les ETF, donc les entrepreneurs de travaux forestiers, les bûcherons, sur ces sujets-là. Est-ce que c'est facile de les sensibiliser? Ils sont aussi dans des situations économiques compliquées et donc parfois, ils n'ont pas le choix d'accepter des gros chantiers. Et donc voilà, je pose un peu cette question-là aussi sur les ETF, ceux qui réalisent du coup les coupes. Et je m'interroge aussi, c'est vrai que moi je suis paysagiste et on parle beaucoup d'inventaire naturaliste, d'espèces protégées, parce qu'aujourd'hui, réglementairement, c'est ça qui compte. Mais effectivement, ça pose la question de réaliser les inventaires à la bonne période. Quand on contacte l'OFB, l'OFB se déplace à un instant T et il expertise, par exemple, la destruction. Mais potentiellement, la destruction est déjà faite, donc les espèces protégées sont peut-être parties. La période n'est pas optimale parfois pour certaines espèces protégées. Et donc, je m'interroge aussi sur comment sensibiliser l'ensemble des praticiens naturalistes. Il y en a beaucoup qui travaillent dans le bureau d'études et qui sont passionnés de faune, de flore, mais qui passent leur temps à faire des études d'impact sur des lieux qui vont être détruits. Des paysagistes, pareil, des écologues, pareil. Et je pense qu'il y a un besoin aussi d'aller chercher ces praticiens, de les sensibiliser sur leur responsabilité quand ils travaillent sur ce genre de projet et de comment on peut justement réaliser des études complémentaires, diversifiées entre les disciplines pour augmenter le rapport de force. J'avais une autre remarque aussi sur justement Forêt en Vie. Enfin, moi, je trouve ça super, cette démarche de racheter des forêts. Mais effectivement, aujourd'hui, Forêt en Vie à 100 hectares, c'est rien à l'échelle du pays. On ne va pas réussir à racheter l'ensemble des forêts. Et donc, du coup, et puis racheter les forêts à qui? Nous, on a un problème sur la forêt par chez moi, mais elle appartient à la caisse d'épargne. Donc, on ne va pas racheter la forêt à la caisse d'épargne. On n'a pas les moyens. Enfin, en fait, c'est aussi ça la question, c'est de se dire peut-être qu'on va l'occuper, peut-être qu'on va la récupérer, mais la racheter à la caisse d'épargne, moi j'ai un souci avec ça. Voilà, c'est tout.
On pourrait très bien racheter la forêt à la caisse d'épargne, ça va être juste une histoire de prix. je pense qu'ils vont être un peu exigeants. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions, il y en avait plusieurs. La première sur racheter des forêts, oui, c'est peut-être pas le plus simple de racheter de la forêt à une entreprise d'assurance ou une banque. Mais par contre, acheter de la forêt à des privés, c'est beaucoup plus simple et ça se fait assez régulièrement. Nous, on n'a que 100 hectares parce qu'en fait, le but de Forêt en Vie, qui est un fonds de dotation, c'est de trouver de l'argent pour acheter des forêts. Et nous, on ne va pas chercher l'argent n'importe où. Si Total nous propose de fric pour se donner une image verte, on lui dit niette, on n'en veut pas. Donc on étudie les propositions qui nous sont faites. On fait attention d'où vient l'argent pour acheter des forêts. On a quand même une éthique assez... Et puis on a un groupe, on est deux là, ici, à être du conseil d'administration. Donc à chaque fois, on prend les décisions ensemble. Hein, c'est vraiment très, très démocratique. Donc ça, première chose, on fait attention d'où vient l'argent. Après, on nous propose beaucoup plus de forêts que ce qu'on a d'argent pour y mettre. Bon, là, de temps en temps, on a un peu d'argent, hop, on rachète de la forêt, puis après, ça redescend, puis après, on rachète de la forêt. Et à chaque fois qu'on achète de la forêt, il faut qu'on ait en face une association qui va s'en occuper. Il faut qu'on ait le collectif qui est motivé et qui a vraiment voilà, une belle motivation et puis qui nous donne des arguments pour nous dire, bon, on est là, on va s'occuper de la forêt. Ça peut être... pas forcément une occupation liée à la production de bois. Hein. La première forêt qui a été acquise en France, elle est dans le Lot, 2,5 hectares, c'est une toute petite forêt. Et en fait, on va s'en occuper uniquement pour des raisons pédagogiques. Elle est à 800 mètres d'une école. Bon, ça descend pour y aller et ça remonte pour remonter. Donc elles ont du mal à y aller, encore les maîtresses. Mais en tout cas, c'est une petite forêt qui est assez jeune, parce que issue de la dépréciation, des prises agricoles, pardon. Donc c'était une vigne il y a 100 ans, et puis aujourd'hui c'est une forêt, mais qui pousse tout doucement. Donc on s'en sert surtout pour ça. Mais ça peut être culturel, ça peut être de la coupe d'arbres, ça peut être... on a des collègues qui ont racheté une forêt d'épicéa où il n'y a que des épicéa, et en fait ils font des éclaircies pour faire revenir d'autres espèces. Et la dernière fois, ils ont fait un super chantier sans tronçonneuse. Tout à la hache et au passe-partout. Donc voilà, et ça fait participer des gens. Et voilà, c'est vraiment un autre esprit. On ne s'interdit pas donc de produire du bois là-dedans. Hein. C'est, voilà. Donc si vous avez hérité de votre grande-tante et que vous ne savez pas quoi faire de votre argent, on saura quoi en faire de façon intelligente. Après, tu parlais des différents usages des bois sur les coupes. Effectivement, ça part énormément au bois énergie ou au papier. Pourquoi ? Parce qu'on coupe des forêts qui sont soi-disant abîmées, soi-disant en train de dépérir, et puis on va replanter autre chose. Enfin, on va trouver des solutions vraiment miracles. Tu pourras en parler un peu, toi, si tu veux. Ce qui n'est pas forcément très, très miraculeux. Je prends l'exemple de Tour-de-Fort, ici, que je connais bien. Il y a un propriétaire qui a coupé sa forêt. Il avait des très, très beaux douglas, bizarrement, là-haut, c'était comme ça. Et puis, à côté, un bois de pin, du pin noir, pas terrible, enfin, mais qui poussait encore un peu, mais pas terrible. Et il a tout rasé pour mettre du cèdre et de l'érable plane. Bref, c'était pas spécialement con comme essence, sauf qu'il a tout rasé. Et puis, il a tout broyé. Donc, il avait un mulch comme ça. Donc, les sangliers sont venus à la première semaine où ils ont planté les arbres. Ils sont venus fouiner et ils ont tout déterré, etc. Et le propriétaire qui a eu des aides pour planter ça, il est soumis à une réglementation particulière. C'est que dans les 5 ans, il faut que ce soit de la forêt. Mais là, j'ai un gros doute sur les 5 ans. Ça fait déjà 3-4 ans, là, je n'y suis pas retourné. Donc, ça veut dire que sa forêt, elle est cuite au sens propre du terme, parce qu'en fait, il a laissé aucun arbre. Et du coup, avec 40 degrés sur des terrains comme on a ici de Causse, ce n'est pas terrible. Alors qu'il aurait suivi mon conseil. Je lui avais dit, moi, mais garde les arbres et fais une forte éclaircie. Tous les chênes, ils vont revenir. Et on va transformer la forêt de pins en un peuplement mélangé qui reviendra après à un peuplement naturel de chênes pubescents sur ces causes, avec de l'érable de Montpellier, etc. Ce qu'il n'a pas fait, mais bon, voilà, on fait des erreurs. Et puis après, qu'est-ce que tu avais dit d'autre ? Les bûcherons ETF. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des bûcherons... Alors, pourquoi on n'en a plus ? Des bûcherons manuels, hein, j'entends. Pas les bûcherons qui ont la grosse machine. En fait, on pousse les bûcherons à acheter une grosse machine, c'est-à-dire une abatteuse, à 500 000 euros. Donc, une abatteuse à 500 000 euros, il faut que ça tourne tous les jours, hein, parce que sinon, les traites qui tombent tous les... Donc, il faut que ça tourne tout le temps et que ça exploite du bois, quoi. Pas forcément dans des très bonnes conditions, etc. Moi, je connais quelques chauffeurs de machines et ça, j'ai confiance en eux. Je sais comment ils travaillent. Ils font ça comme il faut. Ils font attention à pas tasser les sols. Ils font attention. Enfin bon, bref. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'aimerais bien trouver des bûcherons, sauf qu'ils sont sous-payés, les bûcherons, depuis un sacré bout de temps. Et un bûcheron, s'il veut gagner sa croûte, faut qu'il sorte 350, 400 euros dans la journée. Et ils ont du mal, parce qu'on ne les paye pas cher austère, etc. Mais ça fait longtemps. Hein. Et du coup, on les pousse à se suréquiper. Une tronçonneuse de professionnel, ça vaut 1000 balles. Et une abatteuse, ça vaut 500 000. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes traites à la fin du truc. Donc, voilà. Si on payait mieux les bûcherons, et puis qu'on les intéressait aussi à la sylviculture, ça m'arrive de faire travailler des bûcherons. Je lui dis, bon, voilà, je vais te faire un truc ici, là, mais tu n'as pas l'habitude. Donc, on va essayer de te payer plus, en tout cas mieux. Et lui, il s'intéresse. Il voit ce que j'ai marqué comme arbre, qu'est-ce que j'ai choisi, pourquoi j'ai enlevé celui-là, pourquoi j'ai gardé celui-là. Mais il me dit, celui-là, il est plein de trous, pourquoi tu l'as gardé ? Ah ben, je dis, parce qu'il y a du murin de Bernstein à l'intérieur. C'est une sauve-souris que tu dois garder et que ça fait partie de la biodiversité, etc. C'est que ça. Mais souvent, ils sont sous-payés, ces gens-là. Et puis, ce n'est pas un métier facile, hein, bûcheron. Il faut envoyer du steak, hein, pour gagner sa journée. Donc voilà. Et puis, tu parlais aussi d'inventaire d'espèces. En fait, il y a souvent déjà des inventaires d'espèces sur des zones, notamment les ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique, floristique et faunistique. Voilà. Et c'est des documents, ça, par contre, qui sont complètement publics. Tu les trouves sur le site de l'U... Ah, c'est plus accessible ? Ah oui, il a été piraté, ce site. Merde. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, bref, en tout cas, c'est normalement accessible. Et dans ces études de zones particulières naturelles, eh ben, tu as toute la liste des espèces qui ont été répertoriées par des naturalistes qui n'étaient pas payés par des Total ou par des je ne sais pas qui. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Et puis après, bah, tu demandes à la LPO locale ou à des associations de naturalistes spécialisées dans les insectes, etc. Et souvent, eux, ils ont de la donnée, hein. Ils en ont de la donnée, qu'ils ont déjà fournie pour d'autres études, etc. Mais ces naturalistes-là, qui sont souvent des naturalistes indépendants, enfin, la LPO ne sont pas indépendants, mais ils ont leur liste à eux. Et puis, il suffit que tu leur demandes. Mais, moi, des fois, je discute aussi avec les gardes de l'OFB, et les gardes de l'OFB, je lui dis, mais est-ce que tu sais si le circuit de Jean Leblanc, il niche là ? Il me dit, oui, le site, il est à peu près à cet endroit. Il ne me donne pas le nid, forcément, mais... Donc, il y a plein de données qui sont déjà existantes. Donc, il faut... faire marcher le bouche à oreille et le réseau. Voilà. Attends.
Ouais, moi, je voulais deux choses. Bon, les bûcherons, c'est difficile. Moi, j'ai été bûcheron avant d'être gestionnaire. Bûcheron-tâcheron pendant un peu plus de 10 ans de ma vie. Ben ouais, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Mais je crois
C'est une dépense physique super, mais t'es en pleine forme. Et je crois qu'un forestier doit avoir les pieds sur le sol, quoi. Mais j'ai rien contre les gars qui ont acheté des machines. Par contre, vous parliez des ETF. Mais les ETF, en fait, eux, ils sont seulement prestataires. La problématique, elle ne vient pas des ETF. Elle vient des gestionnaires forestiers ou des conseillers forestiers à la solde de quelques grandes entreprises dont je ne citerai pas le nom. Oh si, non, je ne vais pas balancer. Et voilà. Et ces gens-là, en fait, ils n'en ont rien à foutre de la forêt, quoi. Ce qui les intéresse, c'est leur entreprise. C'est un petit peu ce qui fait la différence entre ces gestionnaires forestiers et moi, ma fonction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail pour le propriétaire, faire de la futaie jardinée, comme tu l'as expliqué. Hein, on ne coupe pas n'importe quel arbre, à n'importe quel moment. Et mon métier consiste à s'amuser avec la lumière, en fait. Comment faire rentrer dans la lumière dans la forêt pour, lorsque je coupe un arbre, on appelle ça que nous, on tape par le haut, hein, lorsque l'on fait le martelage, c'est que je coupe très souvent des gros arbres qui vont permettre, justement... Pas que, mais assez souvent, des gros arbres. Parce que si je le coupe, c'est que en fait, il y a le petit ou le moyen à côté de lui qui est là pour prendre la relève. Et le fait de couper ce gros arbre, eh bien, celui qui est à côté, eh bien, il va pouvoir prendre de la production, faire de la croissance et prendre la place. Et ce qui permet d'avoir des produits beaucoup plus intéressants. Puisque sur un gros arbre, eh bien, on parlait tout à l'heure de charpente, mais avant de faire de la charpente, on peut faire du parquet, on peut faire du lambris. On peut faire des meubles, et puis après, il y a de la charpente. Après, il y a du bois industrie dont on a besoin aussi pour faire des palettes. Et puis après, il y a le papier dans la dernière partie de l'arbre où on va faire de la trituration, ce que l'on appelle la trituration. C'est le bois qui sert à faire le papier. Donc, la problématique, elle ne vient pas des ETF, elle vient des conseillers forestiers de ces grosses entreprises. Eux, ils sont juste des tâcherons à qui on donne un boulot, on leur dit réfléchis pas, il me faut ça. On a de moins en moins la possibilité de trouver des gros arbres parce que les révolutions maintenant c'est 35 ans. Donc à 35 ans on fait une coupe rase, hein, c'est la trame sylvicole qui est en train de... Non mais le pain maritime il est en train de s'installer partout, ouais. Alliance Forêt-Bois.
Ah tu l'as dit.
Merde. A racheté toutes les coopératives de la Bretagne jusqu'à Anglette, quoi. Donc, et eux, ils se disent, oh là là, réchauffement climatique, il n'y a que le conifère qui va pouvoir survivre. Donc, ils plantent avant tout du pain maritime parce qu'ils connaissent très, très bien et ils ont tout le support pour ça, les engrais, les pépinières, etc., etc. Donc, on coupe tous les feuillus pour mettre du pain maritime. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais en tout cas, ça va faire que ça. Des révolutions en 35 ans, on détruit le sol, les apprentis sorciers sont là, ils fabriquent ce qu'il faut pour arranger tout. La biodiversité, les écosystèmes, on s'en fout complètement, quoi. Mais il ne faut pas peut-être perdre de vue que ça répond à notre besoin, à nous. Je crois que la forêt, elle peut aller mieux aussi si l'humain se regarde un petit peu et si on consomme mieux.
Bravo.
Je voulais vous rajouter juste un petit mot sur Forêt en vie. Il y a 3,5 millions de propriétés forestières en France. Et je pense que c'est intéressant de faire le message parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas forcément des héritiers, qui vivent souvent très loin de la forêt, qui sont quand même inquiets pour l'avenir de la forêt. Et c'est aussi pour ça que Forêt en vie peut être intéressant, parce que tout bêtement, par des legs ou des donations, à la limite de le vendre, mais on n'a pas trop de moyens. Mais franchement, c'est une possibilité parce qu'il y a une clause environnementale. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant à faire connaître plus largement. Vas-y.
Vous pouvez aller sur le site internet de Forêt en vie qui est très bien fait, où il y a plein d'explications.
Je voulais revenir sur le côté stratégie de lutte. On a rappelé à juste titre à quel point cette stratégie qui a longtemps marché de s'opposer au manque de dérogation de destruction d'espèces protégées. Vous connaissez, et certainement même mieux que moi, la décision du Conseil. Et donc oui, parmi les critères pour autoriser en fait une dérogation de destruction d'espèces protégées, il y a le fait que le projet doit être connu d'intérêt public majeur. Or, vous connaissez, comme je disais, mieux que moi, la décision du Conseil d'État, là, suite au recours qui a été fait à Cruis, où le Conseil d'État considère que produire de l'énergie décarbonée aujourd'hui en France, c'est de facto une raison impérative d'intérêt public majeur. Et puis reconnaît aussi que, ben, en fait, une commune, si elle le décide, a le droit d'installer un parc chez elle, même s'il y a dans la commune d'à côté ou dans la communauté de communes des endroits où l'impact aurait été beaucoup moindre. Voilà. Et donc, est-ce que c'est pas, enfin bon, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Enfin, on aurait espéré que le Conseil d'État soit ne juge pas sur le fond, soit juge autrement. Donc clairement, c'est pas une bonne nouvelle. Ça risque de faire jurisprudence et pas dans le bon sens. Et comment on va pouvoir, et c'est une décision définitive hein, qu'on ne peut pas attaquer, comment est-ce qu'on va contourner sur le terrain cette situation-là pour continuer quand même à essayer de faire quelque chose?
Sylvie, elle le sait, moi je suis toujours très très positif. Donc cette décision du Conseil d'État, c'est une décision du Conseil d'État. Et puis, il va falloir faire avec. Et puis, on va continuer. Alors, il y a trois conditions. Le Conseil d'État a fermé la porte sur une et demie, on va dire. Elle était déjà fermée, les R2IPM. Raison impérative d'intérêt public majeur. Cette condition-là, on va dire, elle était déjà cuite. Par contre, effectivement, les deux autres conditions, donc il fallait qu'il n'y ait pas d'autres solutions alternatives de moindre impact. Il fallait rechercher les autres solutions alternatives de moindre impact. Et c'est sur celle-là où effectivement le Conseil d'État ferme un peu la porte. Une décision du Conseil d'État, oui, elle fait jurisprudence. Mais elle fait jurisprudence, comme dirait ma sœur, jusqu'à ce qu'il y en ait une autre. C'est pas immuable. Ça évolue, ça change. Et rien ne dit que demain, parce qu'ils sont allés très loin quand même, rien ne dit que le Conseil d'État réajustera le tir dans quelques mois sur un autre dossier. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'il y a trois conditions. Il existe encore une troisième condition d'octroi. Celle-là, pour l'instant, il n'y a quasiment pas de jurisprudence là-dessus. C'est le maintien dans un bon état de conservation des espèces dont il est question. Et sur Cruis, bon, pour l'instant, personne, parce qu'on ne l'a pas fait encore, mais ça va arriver dans les prochains jours, ce mois-ci. Là, non, je pense que je vais m'y mettre la semaine prochaine. On a une espèce à Cruis qui s'appelle le traqué oreillard, qui est un petit passereau qui sera très probablement dans les prochaines années, mais c'est la décennie maximum. Peut-être d'ici 2030, qui sera probablement la prochaine espèce d'oiseau à disparaître en France. Alors, à disparaître. À être exterminée, parce qu'elle ne disparaît pas par l'argent, c'est pas de la magie, hein. Mais qui en tout cas ne sera plus en France, ne nichera plus en France. Et les populations se cassent totalement la gueule. On était sur, en 2022, je crois, on avait encore 17 ou 18 couples. En 2023, on était sur 12. En 2024, on était sur, je crois, 7 ou 8. Et 2025, je crois que les résultats étaient tendanciellement les mêmes. Et on a du traqué oreillard qui a été constaté par les écologues qui sont allés sur Cruis. Alors, ce n'était pas par hasard, hein, c'était dans la stratégie au mois de mai 2023, quand le collectif Elzer m'a missionné, j'aurais dit, ben, on va envoyer des écologues. Et donc, j'ai des copains, des collègues qui vont sur le terrain et qui vont chercher... On identifie en avance les espèces qu'on pourrait trouver. On ne va pas chercher... Alors, le traqué oreillard, je ne vous cache pas qu'on ne l'a pas cherché. Il était là, c'était un peu le coup de bol. Il y en a tellement peu. Pour qu'on se rende bien compte, il y a 10 fois plus d'aigles royaux en cas que de traqué oreillard. Donc, tomber sur un traqué oreillard, c'est exceptionnel. Donc là, on a rédigé un rapport. Tout a été bien cadenassé, ficelé pour qu'on contraigne Boralex, qui est l'opérateur, pour qu'on contraigne Boralex à demander une dérogation à espèces protégées. Mais on va d'abord demander donc à la préfecture, au regard du traqué oreillard, d'obtenir cette dérogation. Et donc vous me suivez, s'il y a trois conditions et que les deux premières sont fermées, sur Cruis notamment, il reste cette troisième. Le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées. Est-ce que le traqué oreillard, ce projet qui était réalisé sur des sites de nidification potentielle, et historique. Est-ce que ce projet ne nuit pas au maintien dans un bon état de conservation de l'espèce? Donc nous, on a, j'ai fait travailler une dizaine d'écologues et d'ornithologues, dont certains experts, ICN, etc. Enfin bon, bref, on essaye d'aller taper très haut pour que ça soit le plus incontestable possible. Et eux disent que si. Ils disent clairement que oui, au regard de l'état des populations de cette espèce, le maintien dans un bon état de conservation du traquerière n'est pas assuré. Donc la dérogation ne devrait pas pouvoir être octroyée. Or, elle l'a été. Et pour le traquer, il a été évincé de la dérogation. Bon, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec les bureaux d'études, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, là, ils ont dit non, le bureau, c'est pas une zone de nidification. Hop, circuler, il n'y a rien à voir, c'est terminé. Mais parce que le bureau d'études avait identifié que le traquet oreillard était un vrai problème juridique pour le projet. En fait, tout ce que j'ai dit sur les minimisations, les erreurs, tout ça, pour l'instant, c'est très peu judiciarisé. On est un peu dans un no man's land juridique, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, c'est pas normal qu'il se passe tout ça, mais on ne sait pas trop sur quoi aller. Et en fait, nous, c'est ce qu'on va faire à partir du moment où on identifie ces situations-là. Pour moi, il y a au moins 4 infractions pénales. Là, on n'est plus sur des recours administratifs, on est vraiment sur le pénal, le judiciaire. C'est du défaut, puisque ce sont des professionnels qui signent des actes qui ont une valeur juridique derrière, qui ont ça va générer il va y avoir une influence juridique au regard de ce qu'ils disent. Donc ce sont des faux, de l'usage de faux. Mais également, et ça c'est un peu plus... c'est de l'escroquerie. C'est-à-dire qu'ils escroquent l'État. Alors le bureau d'études, il est lui dans la complicité, mais c'est le porteur de projet escroque l'État en disant à l'État les enjeux écologiques c'est ça, alors qu'en fait c'est pas ça du tout. Et il escroque l'État pour essayer d'obtenir une autorisation. Donc les bureaux d'études, pour moi, c'est de la complicité d'escroquerie. D'ailleurs, un bureau d'études Calidris a été poursuivi, pas condamné, je ne comprends pas trop pourquoi, mais j'aurai le jugement, mais a été poursuivi pour ces natures d'infraction-là. Et pour l'avoir simplement dit, d'ailleurs, il me réclame 35 000 euros. C'est aussi, à mes yeux, puisque c'est de l'escroquerie, une association de malfaiteurs. Voilà, ça, depuis Sarkozy, tout le monde connaît cette infraction-là. Mais pour moi, c'est une association de malfaiteurs. Ils se mettent ensemble, ils savent très bien ce qu'ils font, et c'est dans le but de commettre une escroquerie. Voilà. Après, moi, j'identifie des natures d'infraction au parquet et éventuellement au juge d'instruction d'enquêter et de poursuivre pour tel et tel fait. Après, ça, voilà, nous, on apporte des éléments qui sont la plupart du temps probants. Ce n'est pas juste parce que Pierrot Pantel, il a décidé que. Non, c'est que factuellement, c'est des conneries ce qu'ils sont dites et ils le savent très bien. Et puis, évidemment, une atteinte aux espèces protégées quand les travaux ont eu lieu. Donc oui, il y a des infractions sur lesquelles on pourrait les attaquer. Mais le pénal, c'est... Vous savez, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé une plainte pénale. Quand je parle de Montagne de Luant. Dépôt de plainte pénale, 12 juillet 2023. On est aujourd'hui 3 ans plus tard. On espère qu'en 2027, enfin, les infos que j'ai, c'est que le pôle régional environnement de Marseille va probablement audiencer ces affaires pénales en 2027. Ils pourront... Pour Alex, j'ai les éléments pour l'affirmer, a réalisé sa centrale à Cruis en violant la loi de multiples reprises et va pouvoir, le cas échéant, si jamais elle était condamnée, elle va pouvoir payer ses peines d'amende grâce aux fruits de son infraction. Ça, c'est quand même... je trouve que c'est beau, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc voilà, il y a d'autres solutions qui pourront se poser pour continuer à travailler. Non, c'est pas fermé.
Oui, je nous remercie d'être là. Je vous remercie pas d'être là, mais je nous remercie d'être là parce que c'est ensemble qu'on va dépasser la situation. Et le débat a évolué depuis que j'ai demandé la parole, mais je crois qu'il va falloir aussi nommer les adversaires, c'est quand même le capitalisme, et se poser la question, mais effectivement, ça a été dit tout à l'heure, de réfléchir comment il va y avoir des élections. On est en démocratie, il y a souvent des élections. Voilà, on ne va pas focaliser obligatoirement sur l'élection présidentielle d'ailleurs, comme ils veulent le faire. Mais toujours est-il qu'il y a toujours des débats politiques, et je pense qu'on a intérêt à, pour faire converger les forces, et comme disait quelqu'un tout à l'heure, l'écologie sans le social, c'est du jardinage. Donc je pense qu'on a intérêt à porter les choses au niveau politique, même si on sait que le climat politique ou les outils politiques ne sont pas en très bon état en ce moment dans notre pays, quoi, hein, et au-delà, au niveau international. Et après, je finis en disant, je remercie Sylvie, elle n'a pas fait de la pub pour le livre Les Marchands de Soleil. Moi, j'ai lu Le Marchand de Soleil et ça m'a permis de comprendre comment on allait lutter dans mon coin, mon cuc, et sachant qu'on peut gagner. Et bravo à toi, Sylvie, pour ce que tu as fait, parce que tu ne t'es pas mis en valeur, mais c'est normal.
Oui, on est sur un moment charnière. C'est vrai que sur le plan juridique, au-delà de toutes les actions qui sont conduites, il va falloir monter à la contestation vraiment de la finalité. Alors, il y a des moments, on est à la fois extrêmement inquiet sur la forêt, parce qu'effectivement, il y a le réchauffement climatique fragilisé. Les industries de la filière bois aujourd'hui ont besoin de plus de bois. Et on rajoute le kérosène, l'éthanol et l'électricité. Donc, on est vraiment sur un moment charnière où vraiment ça peut basculer. À tel point, et c'est là où il faut garder un petit peu d'espoir, que nous, on le vit sur les Pyrénées-Atlantiques, où on a 4 projets industriels. Les industriels de la filière bois ont fini par accepter de nous rencontrer, nous, associations. On a eu la surprise de voir non pas le directeur ou un membre du bureau, mais tout le bureau de la filière bois Nouvelle-Aquitaine qui a discuté avec nous parce qu'eux-mêmes disent on est très inquiets. Eux, ils disent, ils comprennent le système capitaliste, ils disent aujourd'hui, ça va être la jungle. C'est celui qui va payer le plus, qui va avoir le bois. Et nous, on va sauter. Alors, déjà, effectivement, à Saint-Gaudens, l'usine de papeterie est en train de sauter. Donc, on est sur un système capitaliste où c'est le marché qui va faire le tri. Voilà. Et donc, les industriels de la filière bois peuvent devenir des alliés tactiques. Voilà. Mais c'est loin d'être gagné. Mais en tous les cas, ils sont inquiets. Ils sont inquiets, c'est clair. Sur le plan juridique, il faut également être optimiste. Contrairement à vous, nous, au niveau des Pyrénées-Atlantiques, on a attaqué au pénal, en correctionnel, pour un défrichement illégal de 4 000 mètres carrés. Ce n'est pas grand-chose, hein ? Et on a attaqué pas n'importe qui, on a attaqué le président de la communauté de communes, maire de Bayonne. On était persuadés qu'ils allaient enterrer le dossier. Eh bien non. 6 mois après, il y avait l'instruction a eu lieu. Et 6 mois après, le président de la communauté de communes a été condamné à remettre en état. Donc effectivement, dans les tribunaux, les pôles environnement qui sont en train de se mettre en place commencent à être sensibles à ça. Ce qui est délicat aujourd'hui, c'est que on voit bien que sur le plan scientifique, il y a du travail encore à faire. Quand on voit ce qui s'est passé depuis ces dernières années, l'Académie des sciences s'est elle aussi saisie des problèmes en disant « attention, la forêt va très mal ». L'Académie d'agriculture l'a fait. L'Académie des technologies a dit « c'est très fragile de partir sur l'énergie ». Le Conseil d'analyse économique, je vous l'ai cité, dit très clairement, il dit « mais l'ensemble des politiques publiques forestières, l'ensemble des moyens financiers et des aides vont sur le bois énergie, alors que la politique bois énergie, au mieux, elle est avec des résultats incertains et très probablement avec des résultats négatifs. Donc il y a à la fois une prise de conscience que on est en train de... Voilà, donc ça bouge. Donc nous, au niveau collectif, effectivement, il faut continuer à se battre, même si parfois on est complètement débordé. On a en face de nous du lourd. Hein. Nous, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a en face de nous Airbus, les compagnies aériennes. Bon, c'est pas de. Voilà. Donc, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu parce que. Et il faut bien voir que là, dans les 2 ans qui viennent avec El Niño, on va avoir un réchauffement où les scientifiques disent que c'est certainement, très probablement, un cycle exceptionnel, aussi important si ce n'est plus que celui qui a eu lieu au XVIIe siècle, qui a fait 35 millions de morts par famine. Donc là, on rentre dans une période où la nature, et nous aussi, mais la nature va morfler. Donc quand on va voir effectivement les forêts qui dépérissent à tour de bras, voilà, donc on est dans cette période-là qui nécessite effectivement de porter le dossier au niveau politique, mais également de continuer les luttes au niveau local, quoi, c'est clair. Alors, voilà, même si on fatigue un peu de temps en temps.
Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. On n'a pas dit ce qui se passe pour une forêt qui est détruite, surtout pour les panneaux photovoltaïques qui sont installés en forêt. Si on doit refaire juste une forêt naturelle, il faudra 1000 ans. 1000 ans, juste une forêt naturelle, pas une forêt ancienne, hein. Une forêt naturelle, parce que ça passe par tellement d'étapes et que les sols ont été excavés, on a retourné, on a fait ressortir que de la roche. Donc il n'y a même plus un gramme d'humus. Pour faire un centimètre d'humus, c'est 100 ans. Donc toutes les parties qu'on a déforestées pour du panneau photovoltaïque, plus personne ne verra un brin d'arbre pousser au moins avant 700-800 ans et ça sera les pionniers, comme on appelle. Et c'est ce qui va former une forêt après. Donc là, voilà. Et pour répondre pour la partie politique, sincèrement, je pense que si cette année, on ne fait pas quelque chose de puissant, que ça soit extrême droite ou LFI, si on ne montre pas que la population, la situation, on prend les choses en main, personne n'aura peur de nous, LFI ou RN. Je suis plutôt de gauche. Je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, je n'ai pas trop le choix. Mais voilà, je lui mettrai la pression de la même façon. Et je pense que la démonstration de force, elle doit se faire cette année. Parce que vu la violence de la police, il ne faudra pas penser que le RN fera moins bien.
Merci. Je vais essayer de prendre la parole après, c'est moins facile. Vous avez Yann Clément, en début de réunion, a dit qu'il y avait 70 projets donc photovoltaïques sur le Lot. Ça me paraît énorme. Ouais. Alors, d'abord, ma question, c'est que je me demande combien il y a de groupes derrière ça. Et je me demande s'il n'y a pas de lutte, est-ce que les 70 projets se font ou est-ce qu'il y a une anticipation, finalement, de ces groupes-là qui savent que peut-être il n'y a que 50% qui vont aboutir ou j'en sais rien, que, une question un peu pernicieuse comme ça sur les stratégies de groupe.
Je ne peux pas trop répondre parce qu'il faudrait demander au RAL. Il y a quelqu'un du RAL là qui pourrait peut-être répondre plus que moi. Mais effectivement, ça, c'est des projets. Hein. Ça veut dire que c'est des projets qui sont déposés certainement à la DDT et qui sont en cours d'autorisation ou en cours d'instruction. Merci. Donc, c'est juste à l'état de projet. Mais bon, il y en a déjà qui ont été faits. Hein. Et puis, il y en a un devant moi là qui est de 60 hectares. C'est sur terre agricole, mais encore, c'est aussi pire. Donc, à Montcuq. Mais il y a des gens qui luttent. Hein. Il y a des gens qui luttent, hein, donc voilà. Et donc, mais je peux pas te répondre. Sur ces 60 projets, je crois qu'il y en a très peu en forêt, mais bon, c'est pas grave. C'est comme je le dis, il vaut mieux faire du légume que de faire du panneau solaire. Hein, ça nourrit plus les gens. Et je voudrais juste rebondir aussi sur un truc par rapport. Je suis élu dans ma commune et un de mes collègues, c'est un ancien de Enedis. Et du coup, je lui ai posé des questions par rapport à ça et il me disait qu'en fait, dans le Lot, on produit trop d'énergie verte. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, on balance trop d'électricité sur le réseau avec les énergies vertes qu'on produit dans les campagnes où il n'y a pas beaucoup de monde, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, on fait des surchauffes électriques dans certains endroits. Ils sont obligés de gérer des transformateurs qui montent en surchauffe. Et au lieu d'avoir 220 volts à la prise, eh ben, on peut avoir 240, 250 volts. Et ça fait des énormes problèmes. C'est quand même hallucinant d'entendre des trucs pareils. Alors que c'est tellement simple d'avoir 3 panneaux solaires sur son toit et faire son électricité. Bon, c'est pas très solidaire, mais on peut aussi balancer l'électricité chez le voisin si on en a trop. Je crois que c'est interdit, mais bon. Mais bon, voilà, je peux juste dire ça. Si vous voulez des renseignements plus précis, il faut aller voir le RAL, là, sur leur stand. C'est eux qui ont toute la liste des projets.